BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on avait envie de tirer un grand coup de chapeau à une pépite française de la tech. C'est Pascal, le champion français du quantique que vous connaissez peut-être, qui vient de trouver un premier client pour l'une de ses machines. On va voir ça dans un instant avec Frédéric Simotel. Sinon, on va parler d'Atos, ça faisait longtemps, parce que apparemment l'offre de reprise de Daniel Kretinsky, en l'état, ne fait pas vraiment recette auprès des créanciers. On va voir ça avec Mathieu Pechberti également dans quelques secondes. On parlera tout ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dès 18h30, comme tous les soirs sur BFM Business. On parlera aussi avec eux de la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va arriver cette semaine. Ça s'annonce assez tendu avec les syndicats. Et puis, on dira un mot déjà de ce qui va être aussi un temps fort. Et ça, on en parlera toute la semaine, bien sûr. VivaTech, qui commence mercredi du côté de la porte de Versailles à Paris. Voilà le programme. Puis dans 10 minutes, c'est l'économiste Patrick Artus qui sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans la grande interview. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
Good evening business, le journal.
Donc c'est un tournant, n'ayons pas peur de le dire, en matière d'informatique quantique, et ça on le droit à une société française qui s'appelle Pascal. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Guillaume.
Pascal, c'est officiel, va installer, alors pas un ordinateur quantique, mais une première machine quantique chez un premier client, c'est le saoudien Saudi Aramco. Finalement, quand on parle quantique, on se rend compte qu'on parle d'un futur qui est plus si lointain que ça, Frédéric.
Non, c'est exactement ça. Les entreprises et la communauté scientifique se rapprochent de plus en plus et sont en train de vraiment de passer de la R&D à l'adoption. Donc, même si la promesse d'un véritable ordinateur quantique, elle est encore un peu loin, mais en tout cas, tout le monde investit sur ces technologies quantiques. Imaginez, dans les années 2019, on investissait environ 200 millions. Là, on va atteindre 1 milliard d'euros l'année prochaine. Donc, voilà, les investissements sont passés à une vitesse supérieure. Les géants de la tech se battent, les Google, les IBM, les Alibaba. Et puis, les grandes entreprises s'y mettent. Alors, en France, on a des Airbus, Thales, EDF, MDBA. On a le Crédit Agricole CIB. À l'étranger, il y a BMW. Donc, tout le monde s'y met. Ça va servir à quoi? Le chiffrement des données pour sécuriser davantage nos réseaux de télécom. La simulation informatique pour tester des réactions chimiques, ce genre de choses. Et puis, l'optimisation combinatoire pour optimiser la trajectoire d'un satellite, pour optimiser la trajectoire d'un avion, ouais, pour optimiser des réseaux de livraison, aussi une flotte de véhicules de réseaux de livraison. Et donc, lui, Aramco, ça va être pour plusieurs choses. Ça va être, comme ils sont à la fois dans l'énergie et la chimie, tester des réactions chimiques, c'est gérer des raffineries, enfin voilà, gérer leur réseau pétrolier. Et donc, ils se sont dotés de cette machine quantique, alors de 200 qubits. 200 qubits, c'est le qubit, c'est l'unité de mesure voilà, de l'informatique quantique. Alors, ils s'étaient déjà rapprochés en mars 2022. Il y avait une levée de fonds de 100 millions de pascal en janvier 2023. Et Aramco était déjà dans le package. Et puis donc c'est un contrat qui va vraiment donner un coup d'accélérateur, ouais, au quantique français à l'international, et ça tombe bien parce que ça fait partie de nos cinq domaines d'avenir. Ouais.
Ils sont toujours indépendants chez Pascal, ils ne sont pas encore fait racheter.
Non, puis vous savez, dans cofondateur Alain Aspect, prix Nobel de physique notamment, voilà, et donc on a des Candela, on a Alice et Bob qui sont aussi en train de mener leur campagne en signant avec des grands groupes pour justement démocratiser cette utilisation du quantique sur le quel d'ailleurs, pour faire la transition, travaille aussi Atos.
Absolument. Pascal, voilà, donc la pépite française du quantique qui livre sa première machine aux Saoudiens, Saudi Aramco. Merci beaucoup Frédéric. Dans l'actualité ce soir, nous avons le dossier Atos. Vous pouvez rester Frédéric, comme bien souvent. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Oui, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs candidats à la reprise d'Atos. Et là, on entend dire depuis quelques heures que l'offre de Daniel Kretinsky en l'état, cette offre n'aurait pas vraiment la cote, Mathieu, finalement.
Oui, il y a une lettre effectivement des créanciers d'Atos qui a été envoyée à l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou ainsi qu'au ministère de l'économie pour dire que ça ne leur allait pas. Pourquoi ? Parce que les créanciers sont essentiels dans cette restructuration. C'est eux qui vont voter pour l'un ou pour l'autre. Pour l'un, c'est Daniel Kretinsky, ou pour l'autre, c'est David Layani, les deux principaux candidats à la reprise d'Atos. Alors d'autant que ces deux-là vont être, en tout cas, il va y avoir un échange entre eux et les dirigeants d'Atos demain. Il y a une grande journée, on va dire une sorte de grand oral, à la fois des dirigeants d'Atos, mais aussi des potentiels repreneurs. Et en tout cas, ils disent que l'offre de Daniel Kretinsky ne leur convient pas pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent d'effacer pas moins de 80% de la dette d'Atos.
4 des 5 milliards, en gros.
Voilà, 4 des 5 milliards d'euros de dette d'Atos, alors que David Layani, lui, ne propose n'en effacer, entre guillemets, que 2/3. Donc, on est rentré dans une période là, qui va durer une quinzaine de jours, jusqu'à la date définitive, le 31 mai, pour connaître le repreneur. vous avez un jeu de négociation, donc forcément les créanciers disent à Daniel Kretinsky, votre offre on n'en veut pas en l'état, il faut l'améliorer. Voilà, donc il va y avoir forcément une amélioration de l'offre de Daniel Kretinsky dans les jours à venir pour essayer comme dans une élection finalement, de contenter les créanciers. Et puis on peut estimer que dans quelques jours aussi, les créanciers demanderont également à David Layani d'améliorer son offre. Voilà, tout ceci est un jeu de négociation habituel dans des restructurations. On ne sait pas dans quel sens le vent va tourner.
Et demain le grand oral donc pour les prétendants.
Exactement.
Alors, Datos. Frédéric est frustré parce qu'il voudrait bien qu'on parle du volet industriel plus que du volet financier dans cette histoire.
Oui, comme souvent, parce que on est quand même dans un univers dont on parle, le quantique, oui. L'intelligence artificielle, le cloud. Et là, on se dit, mais comment se fait-il qu'on en arrive à une telle situation avec une entreprise comme Atos aujourd'hui, alors tous ces domaines sont en pleine croissance.
Qu'enfin, il y a un repreneur et qu'on puisse avancer véritablement sur les grands enjeux. Merci messieurs, Frédéric Simotel et Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a cette énorme commande pour Airbus aujourd'hui. C'est le groupe Saudia, propriétaire entre autres de la compagnie saoudienne du même nom, qui va commander d'un seul coup 105 appareils. Des A320 et des A321 Neo, contrat annoncé lors d'un forum organisé à Riyad, au prix catalogue en tout cas, c'est un contrat qui se chiffre à un peu plus de 19 milliards de dollars. 18h05 en France, ça va être une semaine compliquée à négocier pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il va présenter dans les prochains jours sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux doivent d'ailleurs être reçus à partir de demain pour en parler. Ça s'annonce assez tendu. Caroline Morisseau.
Parmi les mesures qui tiennent la corde, durcir les conditions d'ouverture des droits. On pourrait devoir travailler non plus 6, mais 9 mois par exemple sur les 24 derniers pour être indemnisé. Autre piste encore, allonger le délai de carence, c'est-à-dire le laps de temps avant que l'indemnisation se déclenche. Aujourd'hui, c'est 6 mois maximum. Le gouvernement pourrait relever ce seuil. L'idée de baisser la durée d'indemnisation semble en revanche écartée, dans l'immédiat en tout cas. Mais le gouvernement ne s'interdit pas de durcir encore un peu plus les règles si la conjoncture s'améliore. Ainsi, il pourrait graver dans le marbre dès maintenant l'idée de baisser encore un peu plus cette durée d'indemnisation si le chômage tombe sous les 6%. Enfin, les employeurs pourraient ne pas être épargnés. Le bonus-malus, qui consiste à alourdir les cotisations des entreprises qui ont le plus recours aux contrats courts et qui ne s'applique aujourd'hui que dans 7 secteurs, pourrait être élargi à tous les secteurs. Si officiellement rien n'est arbitré, une certitude, le gouvernement vise des mesures qui aient un effet rapide sur le marché de l'emploi.
Bon, alors est-ce qu'il faut faire cette réforme de l'assurance chômage, écoutez ce que nous disait ce matin ce spécialiste du marché du travail, Antoine Fouché. En fait, pour lui, le gouvernement ne prend pas du tout le sujet par le bon bout. Écoutez ce qu'il nous disait ce matin.
Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon moment de faire une réforme de l'assurance chômage pour la raison suivante, c'est que le problème principal du pays dans son rapport au travail, c'est le pouvoir d'achat. Depuis 15 ans, le pouvoir d'achat du travail, il augmente de moins de 1% par an. Ce qui veut dire, de façon non technocratique, que travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Et c'est parce que le gouvernement n'a pas le courage de s'attaquer à ce problème de pouvoir d'achat en faisant que le travail paye plus, qu'il s'attaque à un problème beaucoup plus facile en faisant que le chômage paye moins.
Voilà Antoine Fouché, président du cabinet Quintet, ancien conseiller au ministère du Travail. Il était avec nous ce matin sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Braque à Euronext à la Défense parce qu'on travaillait à la Bourse de Paris bien sûr en ce lundi de Pentecôte. Bonsoir Étienne, on a travaillé et on a terminé en petite hausse apparemment ce soir sur l'indice parisien Étienne.
En effet, après deux séances dans le rouge, vous avez un CAC 40 qui rebondit ce soir, mais qui échoue à l'approche des 8200 points, 8195 points. C'est une hausse de 0,3% avec des volumes d'échanges qui, bien entendu, étaient vraiment très faibles en ce jour férié. Du côté des valeurs, à souligner que vous avez Ryanair qui a baissé de quasiment 3% en séance avant finalement de perdre 1,2% à Dublin ce soir, avec des résultats qui sont certes records, un programme de rachat d'actions de 700 millions, ce qui est vraiment inédit pour un acteur aérien en Europe, mais un groupe qui parle de prix qui commence un petit peu à plafonner hein, après des hausses de prix de plus de 20% l'année dernière. L'été s'annonce un petit peu plus compliqué en termes de dynamique de hausse de prix. Donc suite à cela, vous avez le titre qui s'est retourné à la baisse. À noter que la séance a également été marquée par un nouveau record sur l'once d'or aujourd'hui dans un contexte géopolitique trouble en Iran. Vous avez l'once qui est au-delà des 2450 dollars quand les cours du pétrole de leur côté aussi aux alentours des 84 dollars. Et donc la bourse de Paris qui, contrairement à Wall Street, n'est pas sur des plus hauts historiques. Plus 0,3% néanmoins ce soir à la clôture à 8195 points.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous à Euronext, à la Défense pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, on travaille aussi à Wall Street ce lundi de Pentecôte. On travaille mais on ne fait pas grand-chose. Le Dow Jones est à l'équilibre au moment où on se parle. 40 015 points, on est au-dessus des 40 000 désormais. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,6%, 16 786. Tout ça à la mi-séance, 18h09. L'économiste Patrick Artus, conseiller économique chez Natixis, et l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, des questions sur votre livre que vous venez de publier avec votre co-auteur favorite, Marie-Paul Virard, un livre que vous publiez chez Odile Jacob, « Quelle France en 2050 ?» C'est vrai qu'en ce moment, on en parle tous les jours sur BFM Business et dans la grande interview, alors ce qu'on voit, la Chine, les États-Unis, cette espèce de match du corps à corps, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'Union européenne. C'est un peu ce que vous décrivez dans votre livre, c'est pour ça que c'est très intéressant. D'abord, quand même deux questions d'actualité. On s'attend à une perspective des taux d'intérêt, dans les 15 jours, dans les 3 semaines, en tous les cas, bientôt, pour la Banque Centrale Européenne, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des taux significative? Vous avez fait toute une étude très intéressante qui montre qu'en fait, il y a une sensibilité plus grande aujourd'hui des banques centrales vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de la croissance et du chômage.
Je crois que oui, les banques centrales, enfin particulièrement la BCE, a envie de baisser les taux d'intérêt, mais ça ne sera pas facile. La première baisse en juin, elle est acquise, elle est annoncée.
Combien justement ?
25 points de base en juin, donc c'est pratiquement décidé. Mais c'est la suite qui est incertaine parce que le taux d'inflation de la zone euro va remonter. L'inflation de la zone euro est baissée par un facteur technique qui est que sur l'année écoulée, les prix de l'énergie, les prix des matières premières ont beaucoup baissé. Cette baisse va disparaître et même va être remplacée par une hausse des prix de l'énergie et des prix des autres matières premières. Donc on a probablement atteint le point bas de l'inflation à 2,4% et l'inflation risque de remonter d'ici la fin de l'année. Et donc la BCE aura un travail assez compliqué et je crois qu'il ne faut pas attendre plus de 2 baisses de taux d'intérêt, c'est-à-dire 50 points de base cette année.
D'accord, dans l'année. Et de la part de la Banque Centrale Européenne, oui. Parce que justement, ce qui est intéressant, là aussi c'est une première en ce moment, on a un peu le sentiment que tous les schémas qu'on connaissait sont remis à l'envers. Je m'explique. D'habitude, c'est la Fed qui baisse ses taux, puis ensuite la Banque Centrale Européenne qui suit. Là, visiblement, ça va être l'inverse. Est-ce que ça va bousculer, ça va inquiéter les marchés?
Oui, enfin, c'est bizarre parce que fondamentalement, il y a moins d'inflation aux États-Unis qu'en Europe. Si vous regardez les coûts salariaux, les salaires corrigés de la productivité, ils augmentent de 2% par an aux États-Unis et ils augmentent de 4,5% par an en Europe.
Là,
fondamentalement, on a plus d'inflation en Europe qu'aux États-Unis. Mais c'est caché, cette inflation européenne, à nouveau, par la désinflation importée, par la baisse forte des prix des importations. Donc ça donne une marge de manœuvre à la BCE, alors que la Réserve fédérale est engluée dans une inflation qui est toujours presque à 3,5% au mois d'avril.
Est-ce que c'est, à votre avis, c'est un schéma qui va se retrouver, qu'on va retrouver maintenant, dorénavant, on va dire?
Non, je ne crois pas. Je crois que le cycle américain, il est toujours en avance sur le cycle européen.
Ah oui, oui.
Les États-Unis ont un an d'avance cyclique sur l'Europe. L'année 2024 ne sera pas une trop mauvaise année en Europe. L'année 2023 était une très mauvaise année.
Oui, mais pas sur les taux, visiblement.
Non, mais parce qu'à nouveau, il y a l'inflation est perturbée. Par ces mouvements de prix d'importation et puis par la très forte baisse des prix de l'énergie en Europe qui ont bondi au moment du début de la guerre en Ukraine.
Standard & Poor's, le 31 mai, est-ce qu'il faut s'attendre à une dégradation de la France? Quelles conséquences? Parce que moi, je m'en souviens d'une étude que vous avez faite pour Natixis où vous disiez mais finalement, la dette, ce n'est pas si important que ça. Alors d'abord, est-ce que vous pensez qu'on va être dégradé ou pas? C'est grave, docteur. Et la dette, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas?
Bon, d'une part, les agences de rating détestent changer le rating d'un emprunteur lorsque les marchés n'ont pas changé leur jugement sur l'emprunteur. Donc les marchés ont un jugement très positif sur la France, hein, puisque l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne est très bas, il est en dessous de 50 points de base, etc. Donc ça sera une difficulté. Donc le Standard & Poor's aurait été beaucoup plus confortable pour dégrader la France si les marchés avaient déjà implicitement dégradé la France. Et puis, il faut regarder quelle est la dette. Alors, la France, dans le passé, a accumulé beaucoup de dettes à cause de la générosité du système de retraite, de la générosité des systèmes de protection sociale. Mais ce qu'elle annonce maintenant est différent. Elle annonce de la dette qui va financer la transition énergétique, les relocalisations industrielles. Et donc, c'est de la bonne dette, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, la dette qui va financer la transition énergétique, si on ne faisait pas cette dette-là, on ne maîtriserait pas la hausse des températures. Alors, c'est pas que la France. Hein, si tous les pays ne s'endettaient pas pour arrêter la hausse des températures planétaires, on aurait des désordres qui coûteraient beaucoup plus à l'économie que cette dette. Donc, je crois que les agences de rating ne seront pas très sévères. Et d'ailleurs, il ne reste que S&P, hein, puisque les deux autres ont déjà...
Oui, mais c'est la plus importante. Oui, il y avait des critères qui sont, je dirais, presque un peu plus... dans la sensibilité moins organisationnelle, si je puis parler ainsi.
Oui, mais à nouveau, je crois que... ça va interférer aussi.
Donc vous faites ce
pari-là. Ça va interférer aussi avec les nouvelles règles du pacte de stabilité. Les nouvelles règles de ce pacte de stabilité, si vous faites des investissements qui, à terme, desserreront la contrainte budgétaire, à terme, amélioreront la soutenabilité de la dette publique, vous disposez de 7 ans et pas de 4 ans, qui est le cas général, pour améliorer vos finances publiques. Et donc, il y a un ensemble de décisions, y compris en Europe, qui donnent plus de flexibilité pour faire des bons investissements et faire de la bonne dette.
Bon, on va revenir sur l'histoire de la bonne dette parce que ça peut paraître parfois un petit peu compliqué. Alors, dans votre livre, il y a un point que je trouve très intéressant parce que c'est vraiment le sujet un peu d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin, vous dites, de la parenthèse enchantée de la mondialisation? Est-ce que c'est la fin de la mondialisation? Est-ce que, comme vous le dites en citant Sullivan, je crois, vous dites, en fait, il faut se préserver, c'est américain, un petit jardin avec des très hautes clôtures. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que font les États-Unis sur la voiture électrique, avec 100% de droits de douane pour les voitures chinoises. C'est une bonne chose. Jean-Marc Daniel, que vous connaissez bien, il dit, mais ça n'a jamais marché, le protectionnisme, c'est une erreur totale. Alors, que faut-il croire ?
Alors, le protectionnisme est nécessaire lorsque vous protégez une industrie qui est naissante et pour laquelle vous avez du retard dans le développement de cette industrie par rapport à vos concurrents. Et si vous ne faites pas de protectionnisme, vous ne développerez jamais cette industrie parce que vous avez un retard qui fait que vos prix de vente sont plus élevés, vous êtes moins compétitif. Et donc la question qu'il faut toujours se poser, est-ce qu'on tombe dans le cadre de cette théorie des industries naissantes, hein, qui à nouveau justifie le protectionnisme pour une période de temps transitoire, hein, pour le temps qu'il faut pour amener des effets d'échelle,
donc,
pour amener cette économie.
Donc vous dites, les Américains, ils ont raison. C'est ce qu'on devrait faire au niveau français et européen.
Alors, les Européens mettront pas de droits de douane de 100% sur les voitures chinoises. Je crois qu'ils vont faire un calcul qui sera plus raisonnable et plus sophistiqué, qui sera d'évaluer clairement quel est l'avantage de la Chine en termes de quel avantage que procure à la Chine les subventions publiques, quel est l'avantage que procure à la Chine le faible taux de marge de ses entreprises dans la batterie électrique. Et donc, on arrivera à un taux de taxation des importations de voitures chinoises qui sera proche de la réalité économique, du biais de compétitivité de la Chine.
J'aime beaucoup la phrase de votre introduction, justement, sur ce chapitre très intéressant qui s'appelle « Fragmentation du monde, le temps des hautes clôtures ». Là, on est en plein dedans. Vous dites « Notre histoire commence par une sorte d'oraison funèbre. La mondialisation est presque morte. Le libre-échange est presque mort. Et je ne pense pas qu'ils reviendront de si tôt. » Et c'est Maurice Chang, 91 ans, qui est le fondateur justement de l'entreprise de semi-conducteurs taïwanais, TSMC, qui disait ça là, il y a quelques temps, alors que lui, au départ, il pensait que la mondialisation c'était, bah, pour lui, c'était formidable. Donc, vous pensez vraiment qu'elle est morte, la mondialisation ?
Alors, si on prend une photo instantanée, il y a un problème très clair qui touche les échanges de biens. Les échanges de biens sont très en deçà de ce qui devrait être si on était resté sur la tendance antérieure. Donc, il y a une démondialisation des échanges de biens. Il y a des travaux qui montrent que, par exemple, et c'est assez amusant, les pays échangent plus s'ils votent de la même manière aux Nations Unies. Hein, donc, il y a vraiment une segmentation idéologique entre les groupes de pays pour les échanges de biens. On ne voit par contre aucune démondialisation pour les échanges de services, hein, et on ne voit aucune démondialisation en ce qui concerne l'utilisation du dollar. Hein, le dollar est toujours, même de plus en plus, utilisé pour ces utilisations internationales. Et donc, c'est sélectif. On a une grosse démondialisation aussi en ce qui concerne les investissements directs d'entreprises en Chine. Il y a un effondrement des investissements directs d'entreprises en Chine. Et donc, on a des indices de démondialisation, dont échange de biens ralenti et effondrement des investissements d'entreprises en Chine, mais le reste continue à se mondialiser. Hein, les échanges de services, les investissements directs d'entreprises en dehors de Chine, et le rôle du dollar dans l'économie mondiale.
Parce que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est-à-dire que ceux qui votent, qui sont aux Nations Unies, qui votent ensemble, sont en général, votent presque ensemble économiquement, on va dire. Ça fait un bloc géopolitique et un bloc...
Oui.
Mais lorsqu'on regarde le bloc, notre bloc des Occidentaux, on n'est pas dans la meilleure des situations, hein, quand même.
Oui, mais...
Ça revient sur votre livre, Quelle France en 2050, et l'Europe qui s'appauvrira beaucoup
en 2050. Mais je ne crois pas que le commerce n'est qu'une raison. Les pays qui vont souffrir le plus de ralentissement du commerce de biens, c'est les pays qui ont des stratégies qu'on appelle mercantilistes. C'est des pays, par exemple l'Allemagne, ou en Asie, la Corée, le Japon, c'est des pays...
Pourquoi ?
C'est des pays
qui... C'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, hein, quand même, Patrick.
C'est des pays qui faisaient tirer leur économie par la croissance de leurs exportations. L'Allemagne et le Japon sont en croissance négative aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est clair que ces deux pays souffrent. Mais il y a des problèmes européens qui sont très sérieux et qui n'ont rien à voir avec la démondialisation. Il y a le problème démographique. L'Europe a une baisse maintenant pratiquement de 1,5% par an de sa population en âge de travailler. Et le vrai problème qui s'ajoute à ça, c'est le problème de recul de la productivité du travail. Si on avait un vieillissement démographique, mais qui était compensé par des gains de productivité très rapides, ça ne serait pas grave, parce que on remplacerait les hommes par des machines et on continuerait à produire plus. Mais on n'a pas du tout ça. On a à la fois la baisse de la population en âge de travailler et la baisse de la productivité. Et donc, si on fait des extrapolations à l'horizon 2050, on trouve par exemple que le poids de l'Europe dans l'économie mondiale baisse de 22 à 15%. Et si vous continuez plus loin, c'est plus impressionnant encore.
Donc on s'appauvrit quand même.
Le protectionnisme, ce n'est qu'un tout petite explication de ça.
C'est la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire.
Oui, mais
l'explication
la plus grave et la plus inquiétante, c'est l'arrêt des gains de productivité en Europe, alors que les États-Unis, par exemple, continuent à avoir
2%. Comment vous expliquez ça ?
Insuffisance d'investissement en nouvelles technologies, insuffisance de la recherche-développement, problème du système éducatif.
Je sais pas, Vivatech, Choose France, on a l'impression que la France passe son temps à investir dedans. Alors, vous me direz, c'est 5 milliards,
Où
les Américains mettent
50
milliards.
Vous avez tout à fait raison, mais si vous regardez, par exemple, le poids de l'industrie, la production industrielle, en France, elle continue à décliner légèrement.
Donc, pour vous, la réindustrialisation de l'Europe et surtout de la France, elle n'est plus possible. Elle n'est pas possible. Je sais pas, les gouvernements, les ministres, ils vous détiennent le contraire.
D'abord, il n'y a pas de réindustrialisation aujourd'hui. Regardez la production industrielle.
C'est pas le solde d'installation d'usine, la solde positive, solde net.
Et il faut pondérer pour la taille des entreprises qui disparaissent ou qui sont créées. Hein. Mais la production industrielle ne se redresse pas absolument pas. Et alors, vous avez des handicaps majeurs. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de croissance. ça n'incite pas beaucoup à investir dans une région par rapport à un investissement aux États-Unis. Ouais. Ensuite, les aides publiques américaines sont plus efficaces. Le prix de l'énergie est plus bas aux États-Unis. Les coûts salariaux sont plus bas, etc. Donc, vous avez beaucoup d'avantages comparatifs des États-Unis qui ne se retrouvent pas en Europe. Donc je crois que la réindustrialisation de l'Europe, ça ne se fera que pour les industries très stratégiques et ça nécessitera beaucoup d'aides publiques pour se faire.
Oui, c'est là où ça revient sur les questions que vous défendez souvent, c'est la spécificité en fait industrielle économique de chacun des pays de l'Union européenne. Il nous reste 3 minutes et j'ai encore beaucoup de questions, mais quand même, la solution justement pour cette France de 2050, si on reste un instant focus sur la France, c'est quoi? Parce que moi, si je vous écoute, je vais mettre la tête sous l'oreiller, Patrick Artus, et puis j'attends que ça passe, quoi.
Le problème, c'est un ensemble de choses. Il faut réformer le système éducatif pour que les jeunes français soient normalement qualifiés.
Ça sera dans 10 ans, quoi, déjà.
C'est des programmes à 10 ans, de toute façon. Ouais. Il faut investir beaucoup plus en nouvelles technologies et en recherche-développement. Ouais. Les dépenses de recherche-développement des États-Unis, c'est 3,5% du PIB. La France, c'est 2,2. Ouais. Hein, c'est quand même un énorme écart.
Et l'Europe?
Et l'Europe, c'est à peu près le chiffre français, oui.
Ouais,
il faut moderniser notre industrie. On a un handicap aussi, qui est les PME. Les PME françaises sont peu modernes, sont peu productives et on a peu d'entreprises finalement qui se modernisent et qui font des investissements technologiques. Et donc c'est un long programme, mais qui part de la réforme du système éducatif, de la formation de scientifiques. Et bon, alors c'est dans les tuyaux du gouvernement, mais il faut que ça aboutisse.
Oui, c'est compliqué. Toute dernière question, là je reviens à une question d'actualité. Est-ce que les actionnaires sont trop, notamment en France, mais est-ce qu'ils sont trop rémunérés? Je crois que grosso modo, vous avez 67 milliards pour le CAC 40, un peu plus de versement de dividendes, plus 30 milliards de rachat d'actions. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça nuit à la capacité d'investissement des entreprises françaises? Restons un instant sur les entreprises françaises.
Si on regarde les entreprises françaises, elles n'ont pas arrêté d'investir. Au contraire, leur investissement a augmenté assez fortement, beaucoup plus que les autres entreprises européennes. Mais le problème, c'est les investissements nécessaires pour la transition énergétique. Et je crois que nous ne ferons pas ces investissements nécessaires, qui sont à peu près de 75 milliards d'euros par an, si on ne distribue pas moins de résultats aux actionnaires. Et les actionnaires ne seront pas spoliés. Si vous conservez dans l'entreprise des résultats qui sont investis, ça c'est la propriété des actionnaires. Mais il va falloir réduire la distribution de résultats aux actionnaires pour pouvoir faire les investissements de transition.
Toute dernière question, Patrick Artus. Rapidement, vous êtes administrateur de Total Energy pendant longtemps. Oui. Total Energy qui se coterait à Wall Street, ça changerait quoi?
D'abord, ça se coterait beaucoup plus cher, puisqu'il y a une sous-évaluation des sociétés pétrolières européennes par rapport aux sociétés pétrolières américaines.
Merci. De toute manière, a priori, il a refermé la porte, le Patrick Pouyanné. Merci beaucoup. Très intéressant. Patrick Artus, Marie-Paul Virard, Quelle France en 2050, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci Edwige.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business, les experts arrivent. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume,
Audrey
bonsoir
Tchirkov
à tous.
Avec nous bien sûr jusqu'à 20h et puis nos experts sont là. L'économiste Pascal de Lima est avec
bonsoir.
Nous. Bonsoir Pascal, bienvenue Emmanuel Lechypre.
Bonsoir.
Économiste de formation aussi si je ne m'abuse.
C'est exact.
A priori.
Économètre.
Ça. Économètre.
Ouais.
Pourquoi économie?
Parce que c'est de l'économie mathématique.
D'accord, pardon, excusez-moi.
Voilà, on trifouille des modèles.
C'est bien.
Voilà,
parce que ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe jamais de l'économie mathématique.
Voilà.
Ah non, bah pas du tout.
Voilà.
Pas au contraire.
Edwige Chevriot avec nous. Bonsoir Edwige, économiste aussi.
Aussi. Bah,
donc, alors voilà. La boucle est bouclée. Beaucoup de choses, on va dire un mot du bouquin de Patrick Artus, bien sûr, La France en 2050 avec Marie-Paul Virard. Il y a beaucoup de choses et notamment le fait qu'il est zen par rapport à ce que va nous dire Standard & Poor's dans une dizaine de jours. Alors, ça, c'est
oui, étonnant. Alors autant il n'est pas zen sur l'avenir de l'Europe et de la France,
on va en parler,
là,
oui.
On voit bien quand même qu'il voit qu'une émergence très forte de la Chine et des États-Unis. Mais alors sur Standard & Poor's, effectivement, puis c'est le 31 mai, on est tous un peu suspendus. Lui dit que c'est très rare de voir des agences de notation, je n'ai pas vérifié, donc je vous cite Patrick Artus, très rare de voir des agences de notation qui dégradent des émetteurs alors que les marchés ne les ont pas dégradés. Et or, il dit, la dette de la France, bah, tout le monde se l'arrache, tout le monde est très content. Et donc, il voit, donc, à son avis, il n'y aura pas de dégradation. Peut-être un film, il voit pas l'intérêt de la dégradation de la dette de la France. Et de manière, il dit, ça ne changera rien.
Non, mais ce qui est quand même très grave, parce que ce que ça dit, c'est que les agences de notation, elles ne sont jamais en avance de phase. Et d'ailleurs, ça s'est quand même illustré à travers de nombreux exemples, en 2008 notamment, et qu'elles suivent le mouvement. Au lieu
non,
de
c'est
le
pas
créer.
Suivre le mouvement, c'est...
Non, c'est ça qui est quand même paradoxal, c'est que normalement les agences de notation, c'est un peu des c'est un peu pour l'investisseur ce que le guide Michelin est à la gastronomie, c'est-à-dire que vous attendez un avis, vous allez voir, on vous dit que c'est super, vous y allez, on vous dit que c'est moins super, vous avez un peu moins envie d'y aller, et donc normalement les taux sont censés monter, les investisseurs être un peu plus réticents à prêter. Là, s'ils nous disent que finalement c'est une fois que marchés ont décidé que un État méritait d'être sanctionné, que eux décident de dégrader la note. Oui, c'est assez inquiétant, mais ça montre bien que le jugement global qu'on peut espérer de la rationalité, parce que je me rappelle
très aléatoire.
Alan Greenspan à la fin des années 90. Et Pascal a dû connaître ça.
Ancien président de la Réserve fédérale américaine.
Il disait, écoutez, c'est bien de dire qu'il y a des bulles, etc. Mais comment voulez-vous que moi, président de la Réserve fédérale, je prétende mieux savoir et mieux évaluer le niveau des marchés que tous les milliers de gens soi-disant bien informés qui le composent?
Ah ben, on a bien vu que les banquiers centraux avaient du mal à anticiper.
Quand on a vu les taux à long terme européens, par exemple, depuis la création de l'euro jusqu'à 2007-2008, où est que la Grèce, finalement, a les mêmes taux quasiment. Vous dites les forces de rappel des marchés.
Pascal.
Non, mais en fait, c'est très amusant parce qu'on est en plein dans la rationalité qui n'est plus cette fameuse rationalité traditionnelle dont on parle, mais c'est une rationalité en fait mimétique. Et je me souviens de Michel Aglietta qui en parlait beaucoup, notamment.
Autre économètre.
Absolument. Et à mon avis, il y a une double causalité. Pour le dire simplement, les marchés financiers, premièrement, vont apporter un certain nombre d'informations aux agences de notation qui vont les intégrer, évidemment, dans leurs analyses d'économétrie pour produire ces notes-là. Et puis, ces agences de notation-là vont produire des notes qui vont consolider des tendances auto-réalisatrices et notamment les convictions des marchés financiers. C'est ce qu'on appelle, en fait, de la rationalité mimétique. Pour le dire clairement, les agences de notation attendent un mouvement des marchés financiers.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils attendent un mouvement des marchés financiers vers un acteur C, qui est un pays plus ou moins downgradé, pour se positionner. C'est de la rationalité.
Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'écart majeur, on ne voit pas l'écart se creuser entre les taux allemands et les taux français.
Voilà, non, tout à fait.
Non, pour le moment, non, ça reste toujours les mêmes.
L'expérience prouve que c'est jamais très progressif non plus.
Non.
C'est-à-dire que c'est toujours, il y a toujours des changements d'état d'esprit qui sont extrêmement brutaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas...
la Grande-Bretagne, il y a deux
ans. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. On n'a pas d'écart qui se creuse progressivement, avec une analyse de quotidienne, etc.
Et je précise qu'au contraire des marchés financiers, les agents de notation ont subi un fort discrédit au cours des 20 dernières années.
Oui.
Alors que les marchés financiers...
Ça a remonté un petit peu.
Ça remonte un petit peu, mais il y a eu ces histoires de la crise du subprime, tout à fait non prévues.
On n'a rien vu du tout.
Il y a eu, bon, on ne va pas parler de dossier juridique, c'est complexe, mais il y a quelques conflits d'intérêts parfois aussi.
Oui.
Alors que les marchés financiers, on est dans une économie financiarisée toujours.
Il n'y a aucun conflit d'intérêts sur les marchés financiers, évidemment.
Un mot très vite. Alors, le bouquin s'appelle Quelle France en 2050 ? Il a parlé de l'Europe. Il y a un chiffre que j'ai retenu qui m'a effaré. Il dit voilà, aujourd'hui, le poids de l'Union européenne dans l'économie mondiale, c'est 22% du PIB mondial. Ça sera 15% en 2050.
C'est bien. Je trouve que c'est un peu ce qu'on est, le monde qui est en train de la route, en train de tourner. Nous, on l'observe bien en ce moment, je trouve, au cours d'interviews. Lorsqu'on voit les uns les autres, on sent bien que l'Europe est en train de patiner, est un peu de s'enfoncer dans un peu dans la fosse qui est en train de se creuser entre la Chine et les États-Unis.
Oui, c'est ça. En fait, ce que Patrick Artus nous dit dans son bouquin, c'est qu'on a une économie américaine qui conserve tous ses atouts, notamment sa monnaie évidemment, une Chine qui pourrait bien manger son pain blanc, elle est en train de commencer à le manger d'ailleurs, et avec une Europe qui décroche sérieusement, notamment en effet à cause de la baisse de productivité, Pascal.
Oui, j'ai écouté Patrick Artus tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à contredire mes pères, c'est toujours
on
un
est
peu,
là pour
c'est,
ça,
c'est comme avec Christian Zécosu et Chouvrir, mais enfin, il n'a pas parlé de transition, c'est-à-dire
non, ça, vous ne me contredisez pas, d'accord.
On vit une phase de transition en réalité, c'est-à-dire qu'on est un processus de destruction créatrice. Il faudrait aujourd'hui, dans l'analyse de Patrick Artus, séparer la vieille économie de la nouvelle économie. Et vous verrez que les analyses sont très différentes. Il y a une nouvelle économie qui augmente à travers l'intelligence artificielle, les innovations disruptives,
oui,
la création d'un million d'entreprises alliées.
Il y en parle, voilà. Pascal, en disant mondes, que la vieille économie, c'est l'Europe.
Tout à fait. Il y a deux mondes qui se préparent quand même. Et la France n'est pas complètement en retard non plus sur le. Il y a un retard relatif.
Sur les investissements dans les nouvelles technologies notamment, on est quand même à la ramasse.
Oui, sauf que la comptabilité n'appréhende pas ce phénomène. Il faut un certain temps avant que ça émerge dans la comptabilité nationale. Or, les macroéconomistes se font sur les
économies. Emmanuel Macron dit que ça va être 5 milliards qu'on va donner dans le quantique. C'est très bien, mais enfin, je veux dire, c'est minuscule par rapport à ce que donne à l'échelle.
Tout à fait, sauf que les projets.
Qu'il faudrait investir.
Sauf que les projets de transformation dans le change management, dans l'intelligence artificielle dans les entreprises, explosent en variation. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de changer les métiers, d'enrichir les métiers, et avant que ça se voit dans la comptabilité, il nous faut entre 5 et 10 ans.
Mais là, il y a plusieurs...
Je peux juste rajouter un point, tout petit.
Edwige,
juste ce que dit Patrick Artus. Non, d'intéressant aussi, il a fait une note là-dessus pour Natixis. Il dit que tant qu'il n'y aura pas de fédéralisme au niveau de l'Union européenne, on ne pourra pas avoir une politique industrielle commune. Mmh. Donc, s'il prolonge un peu ce que vous disiez. Et je pense que c'est un peu,
oui,
la difficulté.
En même temps, c'est des avantages comparatifs qui sont importants. Donc, la politique industrielle commune est compatible avec les différences de chacun.
Enfin, Emmanuel.
Non, mais ce qui est compliqué, c'est que dans ces nouvelles technologies, il y a plusieurs dimensions.
Oui.
Il y a, est-ce que vous en êtes fabricant? Est-ce que vous en êtes fabricant et utilisateur, ou est-ce que vous en êtes uniquement utilisateur? Et on voit bien que les gains de productivité et les avantages que vous tirez de technologie, c'est bien évidemment bien plus élevé quand vous en êtes à la fois créateur et utilisateur, ce que sont à la fois la Chine et les États-Unis. Et nous, effectivement, on n'y est pas. Mais c'est vrai que quand vous mettez quand même la liste des atouts et des faiblesses de l'Europe par rapport à ces deux concurrents, la liste des faiblesses, elle est quand même beaucoup plus grande. Donc, quand on regarde les industries sur lesquelles on pourrait se dire qu'on a un avenir, quand vous essayez de faire la liste, moi j'avoue qu'il n'y en a pas tant que ça.
Il le dit, il faut se concentrer sur les industries stratégiques.
Il y a quand même un secteur sur lequel on est plutôt en avance, où la France, par exemple, est le pays qui dépose le plus de brevets sur les technologies de la transition à haute valeur ajoutée et tout ce qui est verdissement, etc. Donc là-dessus, on a des technologies de la transition. L'intelligence artificielle, tout ça, on utilisera celle des autres parce que la nôtre, elle n'est pas...
Oui, enfin, pardon, mais on a aussi un vrai souci démographique. Ça, vous n'en parlez pas, parce que d'un côté, on a une baisse de la population en âge de travailler avec cette baisse de la productivité.
C'est
donc c'est quand même le duo perdant.
Mais ce qu'on a, encore une fois, c'est pour ça que le jeu économique mondial, finalement, il se répète. Et c'est un peu comme... encore une fois, c'est toujours les États-Unis qui gagnent.
Bah oui.
C'est comme les films de Rocky, les uns après les autres, on l'a déjà dit ici.
Un jour sans fin,
ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on a un adversaire qu'on confronte aux États-Unis, on se dit, oh là là, c'est un gros rival. Et puis le gros rival, il explose en vol. L'Union soviétique a explosé en vol. Après,
Les États-Unis ne sont pas du tout en train d'exploser en vol. Hein.
Non, c'est ce que je dis.
Ouais,
non,
mais
le challenger des Américains.
Ouais, alors,
on nous a toujours dit... Les États-Unis, ça va flancher.
Au
résultat, ils sont venus à bout de l'Union soviétique. Après, c'était le Japon. On nous a dit, ils vont se faire terrasser par le Japon. Bah, les années 90, ça a été l'effondrement du Japon et la décennie dorée des États-Unis. Après, ça a été la Chine. Maintenant, plus personne vous dit que la Chine rattrapera les États-Unis.
C'est
parce qu'ils ont tout.
Maintenant, c'est l'Inde.
Ils ont tout. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même.
Voilà.
Il faut qu'on avance. Voilà pour l'interview de Patrick Artus qu'on a débriefé pendant, vous voyez, 10-12 minutes facilement.
Il y avait de quoi.
Voilà, il y avait de quoi.
Bon, on voulait évidemment dire un mot, hein, Guillaume, de ce qu'on appelle un marronnier dans le monde du journalisme. Que reste-t-il du lundi de Pentecôte? Que reste-t-il de cette journée de solidarité qui est née en 2004? 2004, rappelez-vous, après la canicule de 2003.
Jean-Pierre Raffarin.
Pas grand-chose.
Ça peut valoir un commentaire, on va peut-être pas
Jean-Pierre
faire.
Jean-Pierre Raffarin et Jean-Chirac.
Ouais. En dire un.
Non, ça mérite pas plus.
Un mot très long. Non, mais voilà. Non, juste ces chiffres que donnait Randstad, 30% des salariés français travaillaient le lundi de Pentecôte en 2016, 44% en 2005. De toute façon, on a compris que cette histoire était faisandée dès le début.
Oui, et pas le service public, hein.
Non, pas le service public. Non, voilà.
Bon, elle a quand même rapporté 3 milliards d'euros en 2023.
Oui, mais ça rapporte, en fait, ça rapporte toujours la même somme. Le truc, c'est que depuis que le dispositif a été assoupli...
Ah, en 2008, on a assoupli,
oui,
voilà.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la fameuse journée de solidarité qui avait été créée après la canicule de 2003 pour rapporter finalement et soutenir et aider financièrement les plus anciens, le dispositif a été assoupli en 2008 et maintenant, vous pouvez la décider à peu près n'importe quel jour férié, voire un jour de RTT. Ce qui compte, par contre, c'est que dans l'année, il y ait bien une journée au cours de laquelle les salariés travaillent bénévolement, entre guillemets, pour aider les plus anciens. Mais donc, du coup, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne sait ce qu'il faut faire, travailler, pas travailler, etc. Mais ça rapporte toujours.
Il y a toutes les boîtes qui donnent. Il y a toutes les boîtes qui donnent aussi le jour. Comme Damo rappelait ce qu'avait fait la SNCF à l'époque, qui avait dit pour pas sucrer deux jours de RTT, de congé férié, ni rien, qui avait calculé en fait combien de temps additionnel il fallait travailler par jour gratuitement pour que sur l'ensemble de l'année on arrive à obtenir une journée de travail. Une minute 52 secondes. La direction de la SNCF a dit à l'époque à ses salariés, mesdames, messieurs, vous allez travailler 1 minute 52 secondes supplémentaires par jour pour financer sur l'ensemble de l'année cette journée de solidarité. Je trouve ça exceptionnel. Qui veut dire un mot là-dessus, Edwige?
Non, mais il y a un sujet sur le financement de la dépendance. Hein. C'est le sujet, c'est les 40 milliards à trouver. Donc on a un processus là, soit administratif. Bon, c'est le cas ici. Bon, on peut bidouiller un paquet de trucs encore pour trouver 8 milliards à peu près, je crois.
Non, mais...
Mais sinon, il y a aussi la
CSG. Il a fallu attendre 2020 pour faire un cinquième reste.
Non, mais justement, sur ces 40 milliards, Pascal, cette journée de solidarité, elle représente quand même 8% de ces fameux 40 milliards. Donc c'est pas mal.
Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une règle qu'on pourrait appliquer à peu près tous les sujets. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on cherche de l'argent, à chaque fois qu'on veut en dépenser, et on l'a dit tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, etc., et à chaque fois qu'on cherche des économies, c'est très simple, on fait à peu près 10 fois moins que ce qui serait nécessaire. Voilà. C'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on va chercher un milliard quand il en faudrait 10, là on va en chercher 3 quand il en faudrait 40, etc. etc.
En fait, c'est le sujet qu'on attend depuis longtemps. Nicolas Sarkozy qui veut faire une grande loi sur la dépendance. On attend toujours et on voit bien que le chiffre, Pascal, 40 milliards, c'est énorme. Mais il faut qu'on trouve une solution.
Oui, parce qu'il y a d'autres leviers aussi.
Mais il y a énormément
les sujets sont toujours multidimensionnels. Oui. C'est l'efficacité des hôpitaux, il y a la responsabilité individuelle, les innovations hospitalières qui diminuent la dépendance.
Et bien, pour l'instant, on n'a pas
la croissance,
solution.
La croissance économique. Mais
bon. Alors qu'on est voilà pour ce lundi de Pentecôte qui vous inspire pas tant que ça. Hein.
En ce qu'il en reste.
Oui, ce qu'il en reste. Bon, allez, dans l'actualité ce soir, sinon, nous avons le dossier Atos, comme bien souvent. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Merci de nous avoir rejoints. Oui, donc, on sait qu'il y a plusieurs candidats à la reprise, sauf qu'on entend dire depuis quelques heures que celle de Daniel Kretinsky n'aurait pas vraiment la cote.
Oui, en fait, vous savez, dans ce dossier, ce sont les créanciers qui vont voter, hein, un peu comme une élection, pour savoir quel est le meilleur repreneur possible. Alors évidemment, les créanciers voteront pour celui qui est le plus généreux en leur faveur. Et le problème, c'est que Daniel Kretinsky ne l'est pas du tout. Lui, il propose d'effacer 80% de la dette d'Atos, hein, donc 4 des 5 milliards d'euros de dette d'Atos, alors que son challenger, l'outsider David Layani, lui, il propose de n'en effacer que 2/3. Donc forcément, les créanciers votent pour celui qui sera le plus généreux avec eux, sauf que là, ils n'en sont pas au vote. Donc là, c'est une petite lettre pour faire comprendre à Daniel Kretinsky qu'il faut qu'il améliore son offre pour qu'il récolte les votes des créanciers, ce qui est assez normal en réalité. Là, on est au début, c'est un nouvel acte, mais au début de ce nouvel acte qui va mener jusque fin mai, hein, dans une quinzaine de jours maintenant, un petit peu moins de 15 jours, où là, il y aura le vote. Mais donc pour le moment, c'est assez normal. D'ailleurs, chacun a formulé une offre volontairement basse qui a vocation à être améliorée. Daniel Kretinsky, a priori, sera un peu plus, on va dire, généreux ou moins sévère, on va dire, avec les créanciers, en effaçant un peu moins de dettes. Et puis, dans le même temps, on devrait avoir dans les jours à venir une demande des créanciers qui demanderont à David Layani de lui de mettre un peu plus d'argent que ce qu'il met, puisqu'il en met un peu moins que Daniel Kretinsky. Donc c'est le match, c'est le jeu des négos.
À ce jour, vous dites avantage quand même sur le long terme à Kretinsky par rapport à Layani, qui sera peut-être plus en mesure de mettre, d'apporter plus finalement.
En tout cas, c'est ce qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois dans ce dossier. C'est qu'il y a quand même, de toute façon, un grand, un gros, un riche, voilà, qui est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui effectivement n'a rien d'un industriel, c'est un financier. Il a été à la fois sur Edity, sur Casino, même si son véritable métier industriel, c'est l'énergie. Et en face, vous avez un acteur plus petit, beaucoup plus petit, mais qui, lui, est du secteur.
Oui, mais alors Mathieu, pardon, mais on en débat à chaque fois. Un plus petit acteur, certes, mais qui s'est entouré de très grands fonds et de milliardaires. Walter Butler, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il se serait engagé dans cette aventure sur Atos avec David Layani sans avoir prévu d'aller jusqu'au bout?
On verra en tout cas dans une dizaine de jours quels seront les résultats de ces offres. Pour le moment, Daniel Kretinsky, on va dire, a un désavantage par rapport aux créanciers, et David Layani a un désavantage par rapport à l'investissement en capital qu'il met dans cette société. C'est le jeu habituel des négociations, il ne faut pas en tirer plus de conclusions aujourd'hui.
Edwige Chevrillon.
Non, demain il y a un grand oral, on peut le dire
oui,
quand même. Demain il y a un grand oral très important. Enfin, important, oui. Enfin, ce sera une étape supplémentaire importante où Hélène Bourboulou va écouter les uns et les autres pour voir leur proposition, comme vient de l'expliciter Mathieu. Ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, vous avez un Daniel Kretinsky, qui effectivement, lui, il a l'air très solide, mais on l'a vu dans le dossier Casino, c'est-à-dire qu'il est venu, il a remporté le morceau, mais quelque part, Casino, tel qu'on l'a connu, n'existe plus. Il a vendu les plus gros hyper, et que maintenant, ben voilà, ça reste Casino est beaucoup plus petit, n'a plus rien à voir avec ce qui se passe avant.
C'est ce qui fait peur aux créanciers, c'est la vente à la découpe.
Voilà, c'est pour ça que j'y arrive doucement, et peut-être pas assez vite, mais c'est vrai que c'est la vente à la découpe qui peut inquiéter tout le monde, les créanciers notamment, peut-être aussi l'État. Et de ce point de vue-là, on a bien vu l'interview de Walter Butler dans Les Échos qui disait non, on ne veut pas du projet de Daniel Kretinsky parce que c'est la vente à la découpe d'Atos. Et à ce moment-là, il faut surtout que ça reste un groupe homogène. Et c'est là où il y a David Layani. À mon avis, le match, il va plus être entre Walter Butler et Daniel Kretinsky. Mais je peux me tromper.
Alors moi, je pense que vous avez raison. Ce qu'on peut dire aussi, parce que maintenant c'est très clair, Daniel Kretinsky a quand même pour projet, lui, de démanteler en effet la boîte faveur...
On ne sait pas très bien ça.
Non, mais enfin, je veux dire...
Il était intéressé par l'infogérance.
Il est quand même assez transparent sur le sujet. En faveur de ses activités à lui, et que sa stratégie, par ailleurs, au-delà de décrédibiliser OnePoint et David Layani, avec beaucoup d'appui politique, notamment de la part de Richard Ferrand, il n'a aucun projet industriel.
Mais quoi, David Layani est très soutenu par Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez dire?
Non, je dis pas ça. Mais je dis qu'il y a en tout cas une offensive.
Non mais vous voyez, si on rentre dans les jeux d'influence, il est très proche d'Emmanuel Macron. Donc on dit qu'il est très soutenu, en tous les cas, par l'Élysée. Mais bon.
Mathieu.
Non mais écoutez, on est dans un dossier... Oui. Voilà, comme les dernières sur Casino, comme il y a eu beaucoup de restructurations d'entreprise depuis très longtemps, on ne va pas s'étonner des jeux politiques, des jeux de réseau, on ne va pas s'étonner du lobbying des uns qui critiquent l'autre. Oui. C'est assez habituel. Il faut quand même regarder les faits et à un moment donné, la réalité économique s'impose.
Oui.
Atos, c'est une société... Je l'ai déjà dit il y a quelques mois, je m'étais fait taper sur les doigts, mais donc je vais le redire, qui est au bord de la faillite, on le voit aujourd'hui. Là, on est dans une procédure amicale de conciliation avec les créanciers qui risquent, si les choses se dégradent, et les choses vont se dégrader. Vous verrez les résultats du premier trimestre qui vont tomber maintenant dans quelques temps. Du deuxième trimestre, ils vont être de toute façon mauvais. Donc Atos est une société qui ou aura besoin d'un actionnaire avec les poches très profondes, et Daniel Kretinsky les a, ce qui n'empêche pas qu'il voudra sûrement découper ou vendre des actifs, avec un actionnaire plus petit, si c'est David Layani qui l'emporte, mais qui de toute façon ne pourra pas supporter tout seul.
Mais juste quand même, parce que sur le parallèle, sur la comparaison avec le dossier Casino, là on a des créanciers qui tiennent leur position.
Pour le moment. Chez Casino, vous vous souvenez que sur Casino, les créanciers avaient commencé par choisir le trio qui était qualifié d'industriel, parce que c'était le cas, comme David Layani sur Atos, avec M. Zoari et M. Ni à l'Epigas, et puis ils ont changé d'avis 48 heures avant. Écoutez, on est dans le monde financier, Il faut prendre beaucoup de précautions par rapport à ce que dit tout le monde.
On est plus dans le monde financier que dans le monde industriel.
Pour l'instant, oui. C'est une frustration de Frédéric Simotel qui était là.
Mais ça, je pense que c'est la grande erreur, à chaque fois, de mettre en avant les arguments industriels alors qu'on est dans une restructuration financière.
Oui, mais quand on regarde la position des banques, et qu'elles soient françaises ou étrangères, mis à part la BNP qui a des intérêts autres avec Kretinsky, elles sont toutes en faveur de One Point.
Pour le moment.
Pour le moment.
Et quelle sera la marge de manœuvre de l'État?
Je pense que c'est un moyen aussi de mettre la pression sur Daniel Kretinsky.
Quelle sera la marge de manœuvre de l'État pour peser sur le cours des choses, Mathieu? Finalement, elle est nulle. Si on va entendre Bruno Le Maire encore gesticuler, on va se rapprocher de l'échéance du 31 mai.
Les créanciers votent, mais il y a quand même... Enfin, on est quand même dans une procédure de conciliation sous l'égide, un, de l'administratrice judiciaire, et deux, le plan qui sera validé, qui doit être validé par le tribunal de commerce, le comité interministériel de restructuration industrielle, qui est une cellule puissante à Bercy, au ministère de l'économie, pèse aussi. Donc, il y a ce triumvirat qui, quand même, décidera. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher, quand même, que le portable de Bruno Le Maire sonnera beaucoup quelques jours avant la décision, évidemment.
Et bien, demain, c'est une étape importante, hein, c'est ça qu'on veut dire.
Et bien, tout ça va encore nous agiter pendant encore...
Plusieurs semaines.
Moi, la grande joie d'Emmanuel Le Chypre.
Oui, qui finira bien par s'intéresser au dossier.
Par le dossier.
Ça va venir, hein, ça va venir.
Non, ça n'est pas que ça ne m'intéresse pas.
Non, c'est vrai, ça, oui, ça m'intéresse.
Ça m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas les moyens matériels de m'y investir pour dire des choses intéressantes, aussi pertinentes qu'Edwige
Et Mathieu.
Nous entendons cet argument. Bien, merci à tous d'être passés ce soir, 18h56. Pascal Delima qui va revenir tout à l'heure à 19h15 avec nos experts. Merci Emmanuel, à demain. Merci Mathieu. Edwige, à demain, 18h10 également, en direct sur BFM Business. 18h57, nous revenons.
Eh oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. On est toujours en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors on voulait tirer un coup de chapeau ce soir à une entreprise française spécialiste du quantique que vous connaissez peut-être, c'est Pascal. Hein, français Pascal qui vient de signer un contrat pour vendre la première machine à base de quantique. On va voir ça dans un instant avec Frédéric Simotel. Bien évidemment, nos experts, ils arrivent dans un quart d'heure, Audrey, bien sûr.
Oui, alors comme c'est un peu la tradition sur BFM Business, on va vous parler d'Atos, évidemment, avec un nouveau rebondissement, puisque l'offre de Daniel Kretinsky, qui est un des repreneurs potentiels, ne fait pas vraiment recette. On vous en parle dans un instant avec Mathieu Pechberti. Et puis, on parlera aussi de la nouvelle réforme sur l'assurance chômage, qui devrait être dévoilée cette semaine. Alors, on vous l'annonce, ça risque d'être tendu. Et puis, aussi, ce qui sera l'un des temps forts de cette semaine, c'est le salon Vivatex. Ça commence mercredi, ça sera porte de Versailles.
Qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure? On sera avec l'économiste Pascal Delima qui va revenir, avec Béatrice Mathieu du journal L'Express, et puis avec Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Voilà le programme jusqu'à 20h.
Ça nous promet un débat animé.
Un qu'on puisse dire.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est un tournant en matière d'informatique quantique, et c'est un Français qui s'appelle Pascal qu'on le doit. Bonsoir Frédéric Simotel. Pascal, c'est officiel, va installer une machine quantique chez un premier client. C'est le pétrolier saoudien Aramco. Finalement, quand on parle de quantique, on se rend compte qu'on parle d'un futur qui est plus si éloigné que ça, Frédéric.
Non, c'est exactement ça. Les entreprises et la communauté scientifique se rapprochent de plus en plus et sont en train de vraiment de passer de la R&D à l'adoption. Donc même si la promesse d'un véritable ordinateur quantique, elle est encore un peu loin, mais en tout cas tout le monde investit sur ces technologies quantiques. Imaginez, dans les années 2019, on investissait environ 200 millions. Là, on va atteindre 1,2 milliard l'année prochaine. Donc voilà, les investissements sont passés à une vitesse supérieure. Les géants de la tech se battent, les Google, les IBM, les Alibaba. Et puis les grandes entreprises s'y mettent. Alors en France, on a des Airbus, Thales, EDF, MDB. On a le Crédit Agricole, le CIB, à l'étranger, il y a BMW, donc tout le monde s'y met. Ça va servir à quoi? Le chiffrement des données pour sécuriser davantage nos réseaux de télécom, la simulation informatique pour tester des réactions chimiques, ce genre de choses, et puis l'optimisation combinatoire pour optimiser la trajectoire d'un satellite, pour optimiser la trajectoire d'un avion, pour optimiser des réseaux de livraison, aussi une flotte de véhicules de réseaux de livraison. Et donc lui, Aramco, ça va être pour plusieurs choses. Ça va être, comme ils sont à la fois dans l'énergie, la chimie, tester des réactions chimiques, c'est gérer des raffinerie, enfin voilà, il y a gérer leur réseau pétrolier. Et donc ils se sont dotés de cette machine quantique. Alors de 200 qubits, c'est le qubit, c'est l'unité de mesure, voilà, de l'informatique quantique. Alors ils s'étaient déjà rapprochés en mars 2022. Il y avait une levée de fonds de 100 millions de pascal en janvier 2023. Et Aramco était déjà dans le package. Et puis donc c'est un contrat qui va vraiment donner un coup d'accélérateur au quantique français à l'international, et ça tombe bien parce que ça fait partie de nos cinq domaines d'avenir. Ouais.
Ils sont toujours indépendants chez Pascal, ils ne sont pas encore fait racheter.
Non, puis vous savez, dans cofondateur Alain Aspect, prix Nobel de physique notamment, donc on en a plusieurs, on a des Candela, on a Alice et Bob qui sont aussi en train de mener leur campagne en signant avec des grands groupes pour justement démocratiser cette utilisation du quantique, sur lequel d'ailleurs, pour faire la transition, travaille aussi Atos.
Absolument. Pascal, voilà, donc la pépite française du quantique qui livre sa première machine aux Saoudiens, Saudi Aramco. Merci beaucoup Frédéric. Dans l'actualité ce soir, nous avons le dossier Atos. Vous pouvez rester Frédéric, comme bien souvent. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonjour Guillaume.
Bah oui, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs candidats à la reprise d'Atos. Et là, on entend dire depuis quelques heures que l'offre de Daniel Kretinsky en l'état, cette offre n'aurait pas vraiment la cote, Mathieu, finalement.
Oui, il y a une lettre effectivement des créanciers d'Atos qui a été envoyée à l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou ainsi qu'au ministère de l'économie pour dire que ça ne leur allait pas. Pourquoi ? Parce que les créanciers sont essentiels dans cette restructuration. C'est eux qui vont voter pour l'un ou pour l'autre. Pour l'un, c'est Daniel Kretinsky, ou pour l'autre, c'est David Layani, les deux principaux candidats à la reprise d'Atos. Alors d'autant que ces deux-là vont être, en tout cas, il va y avoir un échange entre eux et les dirigeants d'Atos demain. Il y a une grande journée, on va dire une sorte de grand oral, à la fois des dirigeants d'Atos, mais aussi des potentiels repreneurs. Et en tout cas, ils disent que l'offre de Daniel Kretinsky ne leur convient pas pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent d'effacer pas moins de 80% de la dette d'Atos.
Donc, 4 des 5 milliards, en gros.
Voilà, 4 des 5 milliards d'euros de dette d'Atos, alors que David Layani, lui, ne propose d'en effacer, entre guillemets, que 2/3. Donc, on est rentré dans une période là qui va durer une quinzaine de jours, jusqu'à la date définitive, le 31 mai, pour connaître le repreneur. Vous avez être un jeu de négociation, donc forcément les créanciers disent à Daniel Kretinsky, votre offre, on n'en veut pas en l'état, il faut l'améliorer. Voilà, donc il va y avoir forcément une amélioration de l'offre de Daniel Kretinsky dans les jours à venir pour essayer comme dans une élection finalement, de contenter les créanciers. Et puis on peut estimer que dans quelques jours aussi, les créanciers demanderont également à David Layani, d'améliorer son offre. Voilà, tout ceci est un jeu de négociation habituel dans des restructurations. On ne sait pas.
C'est le jeu, effectivement, la négociation. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises ce soir, il y a cette énorme commande pour Airbus aujourd'hui. C'est le groupe Saudia, propriétaire entre autres de la compagnie aérienne du même nom. C'est Saudia qui va commander directement 105 appareils, des A320 et des A321neo, contrat annoncé du côté de Riyad au prix catalogue. C'est un contrat qui se chiffre à un peu plus de 19 milliards de dollars. 19h07 en France, ça va être une semaine compliquée à négocier pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il va présenter dans les prochains jours sa nouvelle réforme de l'assurance chômage, censée entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Ça s'annonce, disons-le clairement, assez tendu. Caroline Morisseau.
Parmi les mesures qui tiennent la corde, durcir les conditions d'ouverture des droits. On pourrait devoir travailler non plus 6, mais 9 mois par exemple sur les 24 derniers pour être indemnisé. Autre piste encore, allonger le délai de carence, c'est-à-dire le laps de temps avant que l'indemnisation se déclenche. Aujourd'hui, c'est 6 mois maximum. Le gouvernement pourrait relever ce seuil. L'idée de baisser la durée d'indemnisation semble en revanche écartée, dans l'immédiat en tout cas. Mais le gouvernement ne s'interdit pas de durcir encore un peu plus les règles si la conjoncture s'améliore. Ainsi, il pourrait graver dans le marbre dès maintenant l'idée de baisser encore un peu plus cette durée d'indemnisation si le chômage tombe sous les 6%. Enfin, les employeurs pourraient ne pas être épargnés. Le bonus-malus, qui consiste à alourdir les cotisations des entreprises qui ont le plus recours aux contrats courts et qui ne s'applique aujourd'hui que dans 7 secteurs, pourrait être élargi à tous les secteurs. Si officiellement rien n'est arbitré, une certitude, le gouvernement vise des mesures qui aient un effet rapide sur le marché de l'emploi.
Caroline Morisseau. Et puis sur les marchés, ça a été l'un des faits du jour. Les cours du cuivre ont atteint aujourd'hui un record historique, un peu plus de 5 dollars la livre. Le cuivre est de plus en plus recherché dans le cadre de la transition énergétique. Et vous allez voir, c'est tout bénef pour une PME de Normandie dont on voulait vous parler. Elle s'appelle WeCycling. Elle produit des métaux précieux, cuivre ou autres, à partir de déchets électroniques, tout simplement. Reportage de Léo Dumas à Tourville-lès-Illys. On est en Seine-Maritime.
Cuivre, argent, gallium, germanium, palladium, les cartes électroniques sont une mine d'or pour WeCycling. Ici, la PME traite 15 000 tonnes de déchets par an. Tri, fusion, procédés chimiques et les métaux ressortent comme neufs.
Et là, on est sur des qualités 4-9. Ça veut dire 99,99% de pureté. C'est une matière critique qui est secondaire et qui a exactement les mêmes caractéristiques qu'un métal primaire.
Le recyclage dure 4 jours en moyenne. Les déchets viennent de tous les secteurs industriels et de toute la planète, avec souvent un retour à l'envoyeur, détaille Serge Kimbel, le fondateur de WeCycling.
Ces clients vont nous apporter leurs déchets, vont nous demander de leur remettre la matière sous l'état qu'ils le souhaitent en retour, et cela sur des sites un peu différents, en Europe comme à l'étranger.
Car effectivement, le monde entier s'arrache ses métaux et l'Union européenne, qui dispose de peu de ressources, veut plus d'autonomie. Elle a donc choisi de pousser le marché du secondaire avec la loi sur les matériaux critiques adoptée en mars. Elle impose désormais un quart de matière recyclée dans la consommation.
C'est un bon signe. Le taux de recyclé de 25%, pour moi, ne reste pas encore suffisamment engageant pour impliquer des investissements encore plus lourds. Donc ce serait peut-être ça que j'attendrais de la Commission européenne, c'est d'avoir encore un acte encore plus marqué sur ce taux de recyclé qu'il faudrait atteindre.
Face à la hausse des besoins, WeCycling va s'agrandir et espère quadrupler ses capacités d'ici à 2030.
Voilà, WeCycling basé en Normandie, reportage de Léo Dumas pour BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, car la Bourse de Paris était ouverte. Mais oui, on se l'a dit de Pentecôte. CAC 40 qui grappille ce soir 0,35%, 8195 points. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
On travaille aussi du côté de Wall Street, évidemment.
Évidemment, avec des niveaux records. Hein. Contrairement à Paris, vous avez trois indices américains qui sont sur des plus hauts historiques. Le Dow Jones au-delà des 40 000 points. Vous avez un S&P 500 au-delà des 5300 points. Le Nasdaq de son côté à 16 820 points. Alors il y a un instant, vous parlez du cuivre. Bah, il y avait également l'once d'or qui a touché un nouveau plus haut historique aujourd'hui, au-delà des 2450 dollars pour une once d'or, avec bien sûr une nouvelle phase d'incertitude en Iran suite hier au décès du président dans un accident d'hélicoptère. Donc forcément, l'once d'or, qui est une valeur refuge par excellence, est recherchée aujourd'hui. Normalement, vous avez Wall Street qui avance aujourd'hui encore et toujours grâce à Nvidia, qui prend plus de 2% avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi soir. Ça sera vraiment la publication de la semaine, avec des analystes qui s'attendent une nouvelle fois à des résultats stratosphériques. Et puis Apple qui gagne du terrain également, malgré le fait que le groupe est obligé de baisser le prix de ses iPhones en Chine parce que la demande n'est pas là. On l'a encore vu vendredi avec les ventes au détail, la consommation n'est pas bonne, et c'est une nouvelle preuve quand même que le climat est plus que tendu aujourd'hui en Chine, mais ça n'affecte pas le titre Apple qui prend quasiment 1% aujourd'hui à Wall Street.
Merci beaucoup Étienne Braque avec nous sur BFM Business, 19h11. On revient avec Audrey Tcherkov dans un instant, et nos experts, ils sont là jusqu'à 20h pour parler de quoi? Ce lundi de Pentecôte un petit peu à la carte, on dit ça tous les ans mais ça s'arrange pas, la réforme de l'UNEDIC qui va être dévoilée cette semaine, et puis on va brainstormer un petit peu sur l'Europe de l'énergie, l'Europe et la transition énergétique, on en parle depuis ce matin. Est-ce qu'on est vraiment très très ambitieux, trop ambitieux en Europe? Tout ça plus bien autre chose jusqu'à 20h, bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on est reparti jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Et nos experts, ils sont là. Pascal de Lima est revenu. Rebonsoir Pascal, bonsoir, économiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Béatrice Patieu est avec nous. Béatrice, bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter éco à l'Express. Et Xavier Patrolin. Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue également, président d'Albatros Capital. Alors, on voulait commencer en disant un mot de ce qui est, alors, comment dit-on?
Un marronnier.
Un marronnier. Un marronnier dans la profession journalistique. Vous savez les métiers qu'on fait. Hein. Que reste-t-il du lundi de Pentecôte? Que reste-t-il de cette journée de solidarité née après la canicule de 2003? Il n'en reste pas grand-chose, apparemment. Hein.
Alors, d'après le site bfmbusiness.com, qui a publié des chiffres aujourd'hui qui montrent qu'en 2016, alors d'après le groupe de travail temporaire Randstad, seuls 30% des salariés français travaillaient le lundi de Pentecôte, contre 44% en 2005, lors de sa mise en place. Et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous dites que le dispositif a été dévoyé, Béatrice?
Oui, ça veut dire que plus personne n'y comprend rien, parce qu'entre les entreprises qui disent c'est travaillé, celles qui disent mais non, c'est pas travaillé, en fait, c'est au bon vouloir. Moi, ce qu'il faut regarder, c'est ce que ça rapporte.
Voilà, c'est ça, parce que là, donc, bon, pour le coup, ça continue à rapporter gros.
Ça continue à rapporter. Alors, l'année dernière, c'était un peu plus de 3 milliards d'euros. Alors, est-ce que c'est suffisant compte tenu des problèmes liés au grand âge l'âge et à la dépendance, etc. Effectivement, pas du tout. Et là, moi, je pense qu'il faut revoir le rapport qui a été très, très bien fait il y a quelques années de ça, le fameux rapport Libo, oui, sur la dépendance, et qui évaluait à un peu plus de 9 milliards les besoins par an, les besoins liés au grand âge et à la situation de dépendance à l'horizon, je crois que c'était l'horizon 2027-2030, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas très loin, en tout cas on est très loin des 9 milliards. Donc
vous rendez compte qu'il a fallu attendre 2020 pour créer enfin ce cinquième risque de la sécurité sociale dont on parlait depuis des années. C'était toujours,
mais c'est le gros
quand
problème,
un président est élu, la grande priorité, une des grandes priorités, et puis ça passait à l'as, et puis ça se faisait.
Alors
pas,
on l'a créé, hein, ce cinquième risque. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis les tuyaux de financement en face. Donc on a un cinquième risque qui existe, et sans financement pérenne en face. On nous promet à chaque élection, ça va être la priorité, loi grand âge, etc. Mais il y a une espèce il y a un ressort presque psychologique, c'est plus que culturel en fait, de ce tabou d'évoquer, on voit bien là la difficulté du débat sur la fin de vie, et d'évoquer cette question de la dépendance où collectivement la société française ne veut pas
mais est-ce que c'est vraiment un tabou ou est-ce que c'est simplement un problème de mettre en effet de l'huile dans les tuyaux, parce que c'est pas comme si c'était le seul sujet qu'on avait du mal à financer. Mais Xavier, cette journée de solidarité, donc comme Béatrice le dit, c'est 3,2 milliards d'euros par an, donc ça représente 8% des 40 milliards dont on a besoin tous les ans pour financer toute l'autonomie des personnes âgées. Il faut travailler d'autres leviers, mais ça reste important, non?
Non.
Ça veut dire non.
Non, oui, ça veut dire non, parce que la dépendance, quand on voit la démographie française, enfin, on gère à reculons ce problème. Donc la dynamique, le scandale Orpea en témoigne, et donc ça boucle au fond avec le problème des retraites d'une certaine façon.
Ouais.
Parce que la dépendance, une partie de nos concitoyens vont la gérer au travers de leurs actifs, notamment leurs actifs immobiliers, mais c'est une toute petite partie de la population. Une grande partie de la population va se trouver en situation de squeeze, pour ceux qui vont pouvoir franchir cet âge, ce fameux quatrième âge, et la retraite ne va pas pouvoir y faire face. Donc si vous avez une retraite qui n'y fait pas face, si vous avez absence de solidarité familiale, et si l'assistance publique est insuffisante, vous êtes dans une situation de cornérisation. Et donc oui, c'est bien, mais on aurait dû créer une dynamique beaucoup plus... Moi, je me souviens des réactions à l'époque.
On oublie le scandale que ça passait.
C'était terrible.
Passait l'émotion de la canicule, en fait.
Voilà, c'était terrible. Donc, c'est un vrai sujet. Et je trouve que ça boucle avec les retraites. Et il faudrait pouvoir le traiter, d'une certaine façon, avec les partenaires sociaux, sur une dynamique... Parce qu'au fond, un moyen... Quand vous avez une démographie... C'est-à-dire qu'on va arriver... Enfin, qu'on se rende compte que notre solde démographique va passer négatif d'ici une dizaine, une quinzaine d'années. C'est-à-dire le nombre de décès va être supérieur
au nombre de
naissances. Il y a une brusque, un brusque effondrement.
Il y a un décrochage
depuis moins d'une dizaine d'années. Mais tous les pays occidentaux, alors il y a des différentes questions. Mais c'est important pour gérer ce type de problème-là. Parce que si vous ne trouvez pas un financement par capitalisation, ou un mixte de capitalisation, vous n'allez pas pouvoir gérer ce problème-là. Et donc, il faudrait boucler une réforme des retraites, vous voyez, il faudrait enchaîner les deux, parce que une partie de la dépendance va être couverte par les retraites. Et donc, il faudrait pouvoir trouver un accord, une espèce de compromis global, pour introduire un peu de capitalisation sur les retraites et créer une poche de capitalisation aussi pour la dépendance. C'est-à-dire, au fond, ça pourrait être un État qui s'endette dans un premier temps et qui crée une poche de revenus pour doter le... Parce que on a l'effet baby-boomer et là, on va passer dans l'effet papy-boomer.
Mais on est bien d'accord, mais sauf que ça, c'est quand même une vision très libérale de l'économie et c'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas, libéral, du ministre de l'économie actuelle.
Je parle de métissage, je parle de panachage. Oui,
oui. Pascal, comme d'habitude, ce problème du financement de la dépendance, j'y vois une raison un peu multidimensionnelle de trouver des solutions. Il y en a une première qu'on connaît maintenant, qui est évidemment comme d'habitude, l'intervention de l'État à travers un certain nombre de techniques administratives. Alors il y a la journée de férié, mais il y a aussi, on le sait, hein, la possibilité d'avoir 7 heures supplémentaires dans l'année. Voilà, il y a un paquet de combinaisons possibles pour trouver cette journée de financement de la solidarité. Il y a ensuite, dans le même groupe, un peu administratif, il y a la CSG, bien évidemment. Oui. Il y a les retraites aussi. Hein. On sait que les retraités, d'ailleurs, aussi, payent, financent. Oui. Hein, à hauteur de 0,3%.
Ça fait des allers-retours dangereux sur la CSG. Hein,
absolument. Oui, mais vous avez tout un groupe de sujets aussi, de solutions autour de l'hôpital, hein, tout simplement, hein, et de la prévention des maladies, de l'hôpital, du suivi des personnes âgées, qui est loin d'être un sujet, qui est loin d'être hors sujet. Au contraire, je le trouve complètement dans le sujet aussi sur cette question de la prévention hospitalière, des EHPAD. Et forcément, moi qui suis un passionné de transformation numérique, les innovations appliquées également à la dépendance. Il y a beaucoup de sujets, il y a des start-up qui sont dédiées à cela. Et puis, bien évidemment, comme tu l'as très bien dit, la solidarité familiale. On en parle peu, mais c'est aussi un élément. Alors, il y a 40 milliards à peu près, je crois, à trouver. Oui. Je sais que c'est 3 milliards 2, effectivement, cette journée de solidarité. Si on additionne l'ensemble, on peut arriver à 8 milliards avec peut-être, si on vient un petit peu bidouiller un modèle économique, on voit un peu de recettes qui peuvent être réallouées sur la dépendance. Mais il nous manque encore de l'argent, effectivement. Il manque encore des...
Oui, d'accord, mais tant qu'on n'a pas trouvé le nouveau système dont vous parlez, qui est un système global à mettre en place,
c'est global,
qui va même reverser un peu la table, on ne peut pas se priver de ces 3,2 milliards qui financent une partie du fonctionnement des EHPAD et des maisons départementales pour les handicapés.
Oui. Non, mais il n'est pas question de s'en priver du tout. Les besoins sont bien supérieurs, et puis c'est un problème global, vous avez commencé à l'évoquer, c'est pas on résoudra pas le problème de la dépendance en disant à la rigueur il faut un deuxième jour de solidarité, c'est l'organisation globale en fait
Cotter sur jambes de bois, ça, pardon,
effectivement il y a un problème financier, mais il y a un problème d'organisation.
Je crois qu'il y a une étude de la Commission européenne ou d'un service économique de la Commission européenne qui parlait d'un doublement, c'est-à-dire en point de PIB, hein, on passe au niveau de l'Union européenne, on passerait, c'est pas de la France, mais de l'Union européenne, on passerait de 1,6 points de PIB à plus de 3,2, 3,4, hein, d'ici une quinzaine d'années. Ouais. Donc là, il faut des choses un peu plus robustes.
Un peu plus costaud.
C'est aussi la structuration d'un système de personnes qualifiées qui peuvent s'occuper des personnes à la maison. Donc c'est aussi la question de la main d'œuvre qualifiée, formée,
disponible,
bien payée, disponible. Et donc ça n'est pas simplement une pure question financière, même si on est tous d'accord là, les 3,2 milliards, c'est bien, mais c'est pas
assez.
Voilà pour la dépendance.
C'est pas le seul sujet, en fait.
Bon, en France, toujours, ça va être une semaine compliquée à négocier pour le gouvernement. Pourquoi ? Eh bien, parce que le gouvernement devrait présenter dans les prochains jours sa nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est censée entrer en vigueur le 1er juillet prochain.
Et vous avez des partenaires sociaux qui vont commencer à être reçus demain par la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Alors, vous savez qu'il y a des pistes sur la table, comment durcir les conditions d'ouverture des droits. Il faudra avoir travaillé non plus 6, mais 9 mois sur les 24 derniers mois. Pour être indemnisé, on parle aussi d'allonger le délai de carence. Faut-il y retourner ? Faut-il une nouvelle réforme de l'assurance chômage, Pascal ?
Sur cette question,
il y aura ton choix.
Il y a une première réponse qui consiste à dire que oui, parce que, alors si je m'en tiens à l'allongement du temps, du durée de cotisation, parce qu'effectivement, ça maintient davantage le salarié au travail, parce qu'effectivement, ça limite les passagers clandestins sur l'assurance chômage, comme le disent les économistes, hein, c'est un terme économique. Maintenant, si on y réfléchit aussi, c'est quelque part une diminution du durée d'indemnisation pour un allongement des durées de cotisation. On voit très bien ce qui se cache derrière quand même. Et puis, il y a les effets négatifs, qui est la précarité technologique en face aussi. La difficulté d'enrichir les métiers fait qu'aujourd'hui, il y a des slasheurs, il y a des CDD, il y a de la précarité. Et que donc, ça rend plus difficile encore d'entrer dans ce système d'allocation chômage quand c'est justifié. Et puis, n'oublions pas que s'il y a moins d'allocation chômage, il y a aussi un problème dans la précarité de pouvoir d'achat qu'on tente aujourd'hui de résoudre avec l'inflation. Donc il y a des contradictions à gérer.
Alors quand même un chiffre, parce que l'UNEDIC qui vient de calculer, alors s'il fallait travailler 7 mois et non plus 6 sur 2 ans pour obtenir cette fameuse allocation chômage. Donc 11% des allocataires seraient pénalisés. Et le régime économiserait 400 millions d'euros.
Oui, c'est ça, oui.
Bon. C'est rien. Bah, alors, c'est rien. Oui, compte tenu de l'ampleur des déficits, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée de relancer ce sujet maintenant pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on sort à peine d'une première réforme de l'assurance chômage, même de plusieurs, mais bon. Où on avait mis en place une nouvelle idée, une nouvelle philosophie qui était cette contracyclicité en fait. Oui. Et alors là, quelques mois, on n'a même pas testé en fait le système, c'est déjà tout balayé.
Oui, on revient déjà dessus.
L'hôtel d'économie où vous venez de le dire, qui seront finalement
assez dérisoires.
Ouais, et donc c'est revenir sur une promesse, sachant que le climat actuel, on est plutôt sur une stagnation, un freinage, un creux conjoncturel, où on ne va pas tellement avoir de baisse du chômage, plutôt une légère remontée du chômage, et un climat social avec des relations avec les partenaires sociaux qui sont déjà très dégradés. Donc on s'assoit sur une promesse au mauvais moment pour proposer un truc qui ne fait pas beaucoup d'économies, je me dis pourquoi tout ça, ce pataquès pour pas grand chose.
Non seulement l'UNEDIC pour grand chose, en plus l'UNEDIC, j'enfonce le clou, dit durcir la condition d'affiliation touchera en premier lieu les allocataires de moins de 25 ans ou ceux sortant d'un CDD ou d'intérim. Autrement dit, les populations déjà les plus éloignées du marché de l'emploi aujourd'hui. Xavier, donc on a tout faux sur cette histoire finalement.
Pour moi, c'est je vais employer un terme un peu excessif, c'est une forme de parjure politique.
Bien sûr.
C'est-à-dire quand la parole politique a du sens, la parole publique a du sens, je pense qu'il faut tenir ses engagements. Et au fond, pourquoi il y a tout ce cinéma ? C'est pas tant pour l'économie budgétaire, elle est ridicule. Mais c'est un dispositif qui plaît énormément aux agences de notation. Parce que vous entretenez l'idée que vous allez augmenter le taux de participation. Et c'est une mesure parmi d'autres. Et celle-ci est centrale pour éviter la dégradation de la signature. Donc il faut toute une cumule de mesures symboliques qui sont audibles par les auditeurs des agences de notation. Celle-là en fait partie, parce qu'elle est perçue comme potentiellement une augmentation du taux de participation. Taux de participation, ça veut dire croissance potentielle plus forte, donc soutenabilité de la dette. Mais pour en revenir à l'observation...
Drague Standard & Poor's qui va parler d'audit.
Exactement. Mais c'est, pour moi, quel est le problème central de la société française depuis une quarantaine d'années ? Le problème central de la société française, c'est d'avoir rejeté, année après année, entre 120 000 et 50 000, ben aujourd'hui c'est 50 000 gamins qui sortaient du système scolaire sans formation. Et on les retrouve aujourd'hui à l'UNEDIC, c'est-à-dire on retrouve, c'est eux qui participent, alors quand ils ne basculent pas dans l'économie parallèle, c'est eux qui participent, c'est eux qui n'ont pas de formation. Et donc si on veut, au fond, les repousser encore plus, parce que cette mesure, elle est présentée au journal de 20h comme une mesure incitatrice, comme une mesure qui va faire retourner au travail.
Mais
au
contraire, mais pourquoi c'est une mesure... qu'elle est présentée, couplée avec ce nouveau dispositif qui s'appelle France Travail et qui est censé justement aller chercher les publics plus éloignés de l'emploi, Pascal Denis.
Mais en deux mots, c'est parce qu'on a aussi dans l'histoire économique, et c'est des études qui sortent aujourd'hui aussi, le rappel de ces lois Hartz de 2003-2005 où on a allongé la durée de cotisation, il y a eu un effet positif sur le taux d'emploi et le taux de chômage. Idem pour la flexi-sécurité, notamment aux Pays-Bas, idem au Canada en 1996. Et donc il y a, je vais expliquer juste un truc rapidement, il y a des raisons économiques où on voit un lien avec le taux de chômage. Je rappelle que l'objectif, c'est d'arriver à 5% au plein emploi. C'est ça l'idée.
Mais le encore, problème,
c'est comme quand on dit que la Finlande a des robots et a des taux d'emploi beaucoup plus faibles que nous. Mais en fait, leur marché du travail est totalement différent. C'est-à-dire que sera toujours prédominant les politiques publiques et les réformes structurelles sur le marché du travail, l'adéquation entre l'offre et la demande, etc. C'est dans ces conditions-là que ces mesures-là peuvent être efficaces. Sinon, elles ne servent à rien, effectivement.
Donc, sous couvert de vouloir intégrer, ramener vers le marché de l'emploi, on éloigne. Voilà.
Oui, c'est une mesure efficace si vous lui adjoignez un dispositif de formation. Voilà. C'est-à-dire, au fond, si vous récupérez ces 50 000 gamins qui sortent du système scolaire sans formation, vous leur remettez une formation en adéquation avec leur territoire, parce qu'il faut raisonner territoire par territoire. Là, à ce moment-là, le mécanisme d'incitation post-formation devient pertinent. Mais si c'est un truc one-shot, non, ça va avoir au contraire l'effet d'exclusion.
Encore une fois, donc, on s'y prend mal.
19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente
Good Evening Business, les experts du soir.
19h34 sur BFM Business, nos experts du soir. Béatrice Mathieu, Pascal Delima et Xavier Patrolin sont avec nous. On va maintenant parler transition énergétique, puisque vous le savez, hein, tous les lundis jusqu'aux élections européennes, eh bien BFM Business évoque un sujet en lien avec ces élections. Et depuis ce matin, donc, on pose la question suivante. L'Europe est-elle trop ambitieuse en la matière?
Sacrée question. On va d'abord redonner quelques chiffres avec Camille Bourg qui nous a rejoint. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Alors, des chiffres tout simples sur les objectifs que nous nous sommes fixés à échéance de seulement quelques années finalement, Camille.
Et oui, alors Bruxelles veut porter la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42,5% d'ici 2030. Pour le moment, on en est encore loin, autour des 23%. Alors pour tenir leurs objectifs, les 27 doivent mettre les bouchées doubles dans l'éolien et le solaire. Dans l'éolien, beaucoup a déjà été fait. On produit aujourd'hui 200 gigawatts. L'objectif, c'est de passer à 500 en 2030. Pour y parvenir, les États membres peuvent s'inspirer du Danemark. En 2022, 55% de l'énergie consommée dans le pays était d'origine éolienne, le ratio le plus élevé d'Europe. L'Irlande était deuxième, le Royaume-Uni troisième et l'Allemagne quatrième avec 26%. Pour ce qui est du solaire, les 27 misent de plus en plus sur les centrales photovoltaïques. L'an dernier, un record a été battu avec l'installation de 56 gigawatts de nouvelles capacités solaires, un bond de 40% par rapport à 2022.
Et Bruxelles mise aussi sur une autre énergie pour atteindre cette neutralité carbone, Camille. En 2050, c'est le nucléaire, c'est ça?
Elle représente aujourd'hui un quart du mix énergétique européen. À elle seule, la France produit la moitié de l'énergie nucléaire consommée en Europe. Au total, l'UE compte 103 réacteurs dans 13 États membres. En revanche, les 27 sont à la traîne concernant l'hydrogène vert. Il représente seulement 2% du mix énergétique européen, mais Bruxelles est décidée à changer la donne. Son objectif est de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030.
Merci beaucoup Camille. Camille Bourg avec nous sur BFM Business. Et là, vous me dites, mais nous sommes décidément tombés sur la tête. Qu'est-ce qui nous a pris de nous fixer de tels objectifs à horizon de quelques années seulement? Je voyais sourire, Béatrice.
Non, mais il y a plein de choses à dire sur ça. La première chose, c'est que finalement, ces objectifs moyens correspondant à l'Union européenne ne veulent pas dire grand-chose dans la mesure où vous avez encore une souveraineté dans ce domaine-là par les États. Et donc, on peut nous atteindre avec une part du nucléaire beaucoup plus élevée que, oui, effectivement, le Danemark. Oui. Ça sert à quoi de se comparer au Danemark qui va faire beaucoup, ou à d'autres pays qui ont beaucoup de barrages. Ça, c'est la première chose.
Il n'y a pas de stratégie énergétique homogène en Europe, c'est ça?
Non, il n'y a pas de. Voilà. Et donc, il n'y en aura pas, compte tenu des choix qui ont été faits. On ne peut pas, dans le laps de temps, dire bon, maintenant, tout le monde, on fait tous la même chose de Paris à Vilnius. Donc, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs même pas souhaitable, compte tenu des réseaux et du passé et des infrastructures qui coûtent extrêmement cher et que l'on a là. Ça voudrait dire déjà mettre d'accord l'Allemagne et la France sur la question nucléaire fait qu'on n'y arriverait pas.
Donc, oui, mais alors, juste pardon là-dessus, Béatrice, vous savez bien que ce qui ne se compte pas, ce qui ne se mesure pas, n'existe pas. Donc, si on ne se fixe pas de cap, d'objectifs chiffrés et de calendrier, en réalité, on va nulle part.
Non, mais ça, c'est très bien d'en fixer. Moi, je pense que dans cette question de transition énergétique, le calendrier qui me, moi, heurte le plus et qui pose le plus de questions, c'est pas tellement la part du renouvelable ou du décarboné dans le mix énergétique.
C'est l'échéance.
C'est certes l'échéance. Et puis, c'est ce qui se passe sur le véhicule électrique. Parce qu'on peut pas parler de transition énergétique sans parler aussi de ce 2035.
Vous savez bien qu'elle sera repoussée, cette date.
De ce 2035 UBS.
Il sera repoussé.
Oui, mais on ne peut pas continuer à afficher cet objectif en ayant, par ailleurs, une politique commerciale, dans le sens politique de droits de douane, etc., que l'on a. On pourrait très bien avoir cet objectif-là si on suivait un modèle américain en mettant des droits de douane.
Oui, mais
sauf qu'on ne le fait pas.
Sauf que, Xavier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'Union européenne et Ursula von der Leyen notamment commence à montrer les dents? Je vous rappelle que quand on a reçu le président chinois sur le territoire français la semaine dernière, elle a été très claire. Elle a parlé justement de réciprocité, de clause miroir et de droit de douane qui allait éventuellement augmenter.
Des droits de douane qui augmenteraient très peu.
Oui.
Enfin, elle a été quand même beaucoup plus incisive qu'Emmanuel Macron.
Ouais, mais revenons-en.
Je pense que sur ce...
Moi, je trouve que Ursula von der Leyen portera une lourde responsabilité sur quand les historiens regarderont avec un peu de recul sur la scène énergétique ou la scène européenne. Au fond, c'est quoi l'ambition ? Ce projet naît pré-conflit russo-ukrainien. Il naît même pré-Covid. L'annonce d'Ursula von der Leyen, c'est le mi-décembre 2019, c'est pas rien la date. Où elle annonce que le New Green Deal, c'est le nouvel homme qui va marcher sur la Lune. Voilà, c'est ça. Et que l'Europe va, que le continent européen va proposer au reste du monde cette chose merveilleuse qui est d'atteindre l'objectif de décarbonation. Voilà, donc il y a cette. Et puis il y a deux chocs majeurs, le Covid, bon, ça c'est. Mais il y a surtout le conflit russo-ukrainien. Et ça change la donne complètement. Je rappelle quand même qu'au moment où le New Green Deal est mis en place, l'énergie nucléaire. L'énergie est considérée comme une énergie de transition. Et nos amis allemands, qui sont quand même, globalement, Ursula von der Leyen est allemande, mais ça, c'est pas une surprise. Mais ceux qui tiennent la plume sur le New Green Deal.
Sont plutôt anti-nucléaires.
Oui, mais c'est eux qu'on conçoit. Au fond, c'était quoi le projet allemand? C'était transformer la base allemande comme une base de centralisation du gaz venant de Russie. Bon, il me semble qu'il s'est passé un certain nombre de choses qui font que la donne a changé du tout au tout. Les prix énergétiques, entre-temps, que ce soit le gaz ou l'électricité, ont été multipliés transitoirement par 3 ou par 4, ce qui a fait que la compétitivité de la zone euro a été complètement détruite. Et même si les prix spot sont en train de revenir, parce que là, pour le coup, on a trop d'éoliennes qui produisent trop d'électricité dont on ne sait que faire, manifestement, on a une structure énergétique qui est supérieure à la moyenne au continent nord-américain et au continent asiatique. Donc, ce qui pose un problème de compétitivité. Donc, moi, je ne comprends pas ces objectifs. Pour moi, il y a le mur des réalités. Et alors, je passe, puisque vous faites tous les lundis cette thématique dans la perspective du 9 juin. Vous verrez que le 9 juin au soir ou le 10 juin au matin, il se sera passé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le PPE qui a fait alliance avec les Verts, au fond, ce New Green Deal, il vient de quoi ? C'était pas du tout dans le projet du PPE. On n'en a même pas parlé au cours de la précédente campagne.
Le PPE, pour des raisons purement électoralistes.
Les Verts, en parlaient, mais tous les autres n'en parlaient pas, ou très peu. Et on a quand même eu un Parlement européen qui a voté comme un seul homme en janvier 2020, le 15 ou le 16 janvier, j'ai plus la date précise, le 15 janvier, à plus de 70% des députés, ils ont voté pour une augmentation des objectifs. Vous imaginez, un Parlement européen qui a été élu par les opinions publiques européennes, dont on n'a pas parlé pendant la campagne électorale du New Green Deal.
Vous avez raison d'en parler, donc, c'est vrai, absolument.
Pour moi, donc ces objectifs sont totalement délirants.
Non, mais surtout que, ironie de l'histoire, puisque vous mettez l'accent sur le conflit russo-ukrainien, on a remplacé le gaz russe par du GNL américain qui pollue beaucoup plus. Pascal.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que je dirais que le signal faible, à mon avis, qui est paraît le plus essentiel. Alors c'est un sujet complexe, il y a plein de chapitres, etc. Mais bon, je vais pas remettre en cause le consensus scientifique. Voilà. Donc cela, effectivement, il faut y aller sur la transition écologique. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Vite et pas forcément bien, parce qu'effectivement, il y a des coûts colossaux.
Donc, moins vite.
Et à mon avis, le signal faible, il est double. Il est au niveau de nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur. D'abord, on a une dépendance aux énergies fossiles, encore, qui est importante. Et donc, de trouver ces alternatives-là.
Le nucléaire, notamment.
Tout à fait. Voilà, mais on sait que ça prend du temps. Et on est en train de remettre en fonctionnement un certain nombre de centrales. Donc, il est là. C'est le temps qu'on va mettre à trouver ces alternatives-là. Sur les alternatives industrielles, aux chaînes de valeur industrielles, notamment le germanium, le gallium de Chine, qui jouent évidemment dans la transition écologique, ils sont absolument essentiels, les semi-conducteurs, parce que derrière cette transition écologique, vous avez toute la chaîne des innovations disruptives, vous avez tous les services informatiques derrière, qui consomment aussi beaucoup de CO2. Ouais. Donc je vois trois centres névralgiques, je vois trois signaux faibles. Nos dépendances aux énergies fossiles, le plus vite possible trouver les alternatives. Nos dépendances aux approvisionnements chinois, le plus vite possible trouver des alternatives. Et ensuite notre coordination européenne pour pas qu'on avance en ordre dispersé. Parce que si on fait une transition écologique coûteuse et rapide, est-ce que les autres vont le faire, nos concurrents directs?
Non.
Sans protectionnisme,
non.
Comme vous l'avez très bien dit.
Non.
C'est ce dessin-là que je vois comme signal faible.
Oui, mais
essentiel.
Le protectionnisme, encore une fois, on le voit pas de la même manière quand on est en France, quand on est les pays du Nord, de l'Europe.
C'est bien le problème.
Quand
c'est
on est l'Allemagne.
Et est-ce qu'on a les alternatives?
Mais on ne pourra pas faire cette transition, recréer les filières qu'il faut, etc. Voilà. Sans, il faut le faut sortir du tabou sur le protectionnisme. Et ce qu'a fait Biden la semaine dernière.
Oui.
Devrait nous alerter au plus haut point parce que sur le véhicule électrique, s'ils ne peuvent pas exporter vers les États-Unis, déjà qu'ils n'exportent pas beaucoup vers les États-Unis, ils vont se concentrer sur l'Europe. Et si on n'a pas une réponse à la hauteur, en fait, de la menace et de l'ampleur des surcapacités de production chinoise, mais on va être balayé.
Et alors, notamment balayé, sur l'acier, puisque la Chine a arrêté de construire, il va se passer avec l'acier ce qui s'est passé sur les voitures électriques.
On va être inondé, bien sûr. Ils ont tellement de surcapacités. Et en fait, aujourd'hui, la survie de l'économie chinoise et du système politique chinois est de continuer ces surcapacités et de les maintenir.
De les écouler.
Et de les écouler.
Vous aviez pas.
Mais c'est vraiment la technique du cheval de Troie. Au fond, le New Green Deal, ça a été une fabuleuse ouverture à l'offre industrielle chinoise. Le Parti communiste chinois a traduit en mandarin le New Green Deal et l'a appliqué industriellement. Et au fond, que fait-on 5 ans après ? On importe des éoliennes chinoises, on importe des cellules photovoltaïques chinoises et on importe des véhicules électriques chinois et notre industrie paravolo. Qu'est-ce que vous
et on vote pour les pesticides
et vous voulez que le 9 juin la majorité des Européens votent comme un seul homme pour le New Green Deal bis? Et ben non, ça va pas se passer comme ça parce que les gens vont tirer un signal d'alarme. Ça veut pas dire qu'ils sont contre la décarbonation, ils sont contre fumer des gitanes ça veut simplement dire je passe sur le fait qu'il y a une petite menace à l'est de l'Europe. Et peut-être qu'il va falloir, dans la hiérarchie des priorités, peut-être arrêter de monter des éoliennes ou des cellules photovoltaïques et s'intéresser peut-être à notre système de défense. Ça peut être tout aussi important, voire peut-être même
alors,
plus important.
Alors, il y a eu quand même quelques années au sujet.
Avec un fonds d'investissement. Pas green du tout.
Mais Vladimir Poutine, il doit rigoler de voir les thématiques.
Allez, voilà pour l'Europe de l'énergie. Est-ce que vous voulez dire un mot? Il nous reste 5 minutes. Avant vos avis, Samy, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Alors, c'est un dossier français, pas seulement français, européen aussi, le dossier Atos. Vous avez vu cette info qu'on donne depuis tout à l'heure, hein, l'offre de Daniel Kretinsky apparemment qu'aurait pas les faveurs d'un groupe de créanciers obligataires du groupe. On est à 15 jours de l'échéance programmée de ce dossier puisque c'est le 31 mai qu'on doit entériner la solution. Est-ce que vous êtes inquiet pour le dossier Atos et tous les fleurons?
Inquiet ou pas, parce qu'une offre a été retoquée, mais une autre...
Oui, il y en a, mais effectivement, on est dans le jeu normal des négociations où les créanciers veulent demander plus, etc. Oui. Donc il y a une sorte de marchandage qui est en cours, on va voir où ça atterrit.
Et le projet industriel.
Le projet industriel, moi je me suis toujours demandé, dès le départ en fait, de l'arrivée de Kretinsky dans ce dossier, qu'est-ce qu'il venait faire là-dedans? Parce qu'on est quand même très très loin de toutes ces bases, en fait. Et s'il fallait prendre un pari aujourd'hui, je pense qu'il n'ira pas dans Atos et que finalement, ça ne serait pas plus mal si aujourd'hui les créanciers continuent à lui dire on retoque le...
Pourquoi ferait-il tout ça pour se retirer? Alors, je ne comprends pas pour vous.
Il veut se retirer depuis très longtemps, en fait.
D'accord.
Mais alors pourquoi aurait-il fait une offre la semaine dernière?
Parce que il continue.
En tout cas, cet appel.
Parce qu'il continue le jeu un peu de façade et qu'il y a d'autres choses qui se jouent.
L'omniprésence de Daniel Kretinsky.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Mais sur le fond, je pense qu'il n'est pas, il n'y tient pas plus que ça. Et les créanciers qui peuvent avoir des craintes sur une vente à la découpe du groupe ont raison d'avoir des craintes quand on regarde le track record de Kretinsky sur Casino.
Ça, c'est clair.
Xavier.
Oui, non, c'est ça la grande surprise depuis 3-4 semaines, c'est qu'est apparue la solution de l'intégrité du groupe. Alors que jusqu'alors, on raisonnait, on faisait des comparaisons par rapport au périmètre Casino, en disant que ça allait partir à volo, que tout ça n'avait aucun sens, etc. Et là, on a quand même des créanciers qui souhaitent maintenir une cohésion d'ensemble. Parce que je pense qu'ils ont bien vu qu'en termes de revenus, de génération de cash, ça allait être nettement supérieur à un dépeçage, bizarrement. Donc ils sont prêts, c'est ça l'information, ils sont prêts à remettre. On n'est pas dans une pure conversion dette-equity, ils sont prêts, il y aura une conversion dette-equity, bien sûr, mais ils sont prêts à remettre du cash pour préserver...
Oui, c'est de l'égoïsme altruiste, parce que là...
Mais il y a très peu d'altruisme,
Ils veulent pas ils n'ont aucun intérêt à ce que l'offre de Daniel Kretinsky, qui propose d'effacer 80% de la dette, se mette en place, parce que là, ils vont perdre un argent.
Oui, parce qu'ils peuvent ils n'ont pas besoin de lui pour faire une opération de
débit. Alors que David Layani, lui, propose d'effacer les deux tiers de la dette, de remettre du cash, donc c'est plus intéressant financièrement pour eux.
Voilà. C'est ça. Donc après, il faut savoir si l'équation financière passe.
Oui.
Parce qu'il y a toujours le fameux problème, vous en avez parlé régulièrement sur ce plateau. Une situation comme celle-là dans le monde de chez les SS2I, si tant est qu'Atos soit une SS2I, c'est très difficile du point de vue commercial.
puisque les SS2I, habituellement, sont cash net.
Oui.
Et donc, si vous êtes, vous avez une structure financière qui est déficit, enfin, avec de l'endettement, les clients sont en train de partir. Donc, ce que vous devez absolument sécuriser à très court terme, c'est offrir une perspective de stabilisation financière pour que les clients existants, c'est même pas pour aller chez des prospects, c'est que les clients existants restent, pour avoir une base de cash flow.
Parce que sinon... ça, c'est quand même toute la stratégie de OnePoint avec le fameux One Atos. Hein.
Ouais, ouais.
Ça va être la première priorité, évidemment. Il nous reste 2 minutes avant vos avis pour dire ah bah ça sera évidemment.
Oui, alors très rapidement, on va parler de l'un des grands événements de la semaine. Ça débute mercredi et BFM Business sera bien évidemment aux avant-postes. C'est le salon Vivatech qui débute mercredi et ça sera à la porte de Versailles.
Mine de rien, c'est la 8e édition de Vivatech qui commence mercredi. Alors, je vous donne quelques chiffres. 150 000 visiteurs attendus, 11 000 représentants de start-up, au moins 2500 investisseurs. Je vous cite le patron de Vivatech. Nous voulons arrêter les discussions théoriques sur l'intelligence artificielle et être dans des innovations concrètes. Vous avez 1 minute 30 à vous trois pour me dire ce que vous pensez de l'initiative Vivatech, finalement. Voilà.
Et le réchauffement climatique, d'ailleurs, à l'ordre du jour. Hein, Béatrice.
Non, mais Vivatech, l'objet Vivatech, c'est une incroyable réussite, quoi. Donc,
oui.
Et qu'ils mettent, effectivement, cette année, l'IA au cœur de Vivatech, me semble une très bonne idée.
Il n'y a pas de mais. Ça cache pas, Vivatech ne cache pas l'insuffisance des fonds dédiés à l'intelligence artificielle. J'attendais ça dans le discours, non? Peut-être.
Ah,
bah oui.
Ah, bah on va voir ce qui va être annoncé.
C'est pas, non, seconde.
Autant sur France, je suis plus dubitatif sur la réindustrialisation, autant sur Vivatech, non, ça monte. Souvent, je l'ai dit sur ce plateau, tu sais que j'ai une admiration pour l'école mathématique française. Non, la France a une carte à jouer.
Bah oui.
Et donc, j'ai pas dit que c'était gagné. Mais on la joue pas mal. Je pense que du point de vue d'outre-Atlantique, on regarde quand même ce qui s'y passe. Ah ben donc c'est pas du tout un truc anecdotique.
Okay.
Je Pascal pense que c'est pas du tout anecdotique.
Il n'y aura pas Elon Musk cette année.
Non. Tout à fait d'accord avec Xavier. C'est pas du tout anecdotique. Et en plus, les innovations, elles procèdent par grappes. C'est-à-dire que c'est dans des cas d'usage qu'on progresse petit à petit, un à un. Effectivement, on a un peu de retard par rapport aux États-Unis. Mais effectivement, on progresse quand même à chaque fois. On a Saclay, on a des ingénieurs brillants. Et tout cela, ça va se mettre en musique petit à petit. Sauf que le procédé de transition écologique est lié aux innovations. Parce que pour moi, les deux sont liés. C'est les métiers de demain. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Ouais. Ça procède par grappes, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Donc on voit la macroéconomie qui est vilaine, qui est méchante sur la France. Et puis on voit les baromètres Vivatech, on voit les baromètres EY qui sont plutôt positifs sur l'attractivité du territoire. Parce qu'on est en destruction créatrice. C'est ça,
c'est vrai. Et puis Guillaume, vous venez de le dire, il n'y aura pas Elon Musk cette année, mais il y aura Linda Yaccarino. Savez-vous de qui il s'agit? La nouvelle CEO, justement, du fameux réseau X.
Patronne de la messagerie Signal aussi sera là, puis des patrons français. Bernard Arnault viendra, Christelle Edman, la patronne d'Orange, sera là également. On suivra ça, bien sûr, sur BFM Business en long, large et en travers. 3 minutes avant la fin de cette émission, l'Extra Time. Comme tous les soirs, vos coups de gueule ou coups de cœur sur une trentaine de secondes maximum. Béatrice, allez, vous voulez commencer?
Allez, je vais commencer. Un anniversaire, on fête là au mois de mai 2020. Les 10 ans du décret Montebourg. Vous vous rappelez le décret
de
2014 en fait, sur le contrôle des investissements étrangers. Donc dans les prochains jours en fait, on va avoir le bilan 2023 de ce fameux contrôle et on verra qu'il y a très 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 peu de refus. Il y en a en réalité très peu chaque année, mais le fait nouveau, c'est qu'il y a effectivement des accords sous contrainte, qu'il y a de plus en plus de contraintes dans la liste que l'on demande aux acheteurs, et ces contraintes deviennent maintenant illimitées dans le temps, même s'il y a cession de l'entreprise.
Et voilà, on sort un peu de la naïveté sur ce sujet.
Pascal de Lima, allez-y.
Pascal.
Un coup de gueule, comme dans le sport, je pense qu'il faut être un petit peu positif aussi sur l'économie française, on entend beaucoup de choses. Il y a un French bashing considérable, et c'est comme dans le sport en fait, en étant positif on amène le positif, et l'économie, comme c'est quelque chose de psychologique, hein, l'économie c'est pas que, alors j'adore l'école mathématique aussi, mais il y a aussi un fondement psychologique et humain qui est essentiel, et être positif collectivement, ça amène des résultats positifs, sans penser systématiquement aux résultats, mais en pensant aux moyens, à la stratégie. Je trouve que ça nous permettrait d'avancer un peu plus.
Ah bah voilà.
Il nous faut des Vivatech, c'est ça que
c'est. Évidemment, des Vivatech.
L'école du verre à moitié plein.
Xavier Patrolin, pour terminer, cher Xavier.
Alors, on va rester dans la séquence anniversaire. Il y a 50 ans, le 19 mai 1974, naissait le Rubik's Cube, en tout cas Ernaud Rubik, qui était un, je ne sais plus s'il est encore en vie, et qui est un architecte hongrois, a eu cette idée pour attirer l'attention de ses étudiants sur la forme du cube, et il a donc créé un Rubik's Cube. À l'époque, il n'y avait qu'une seule couleur, et donc en discutant avec un ami, ils ont décidé de mettre sur chaque face une couleur nouvelle, et naissait le Rubik's Cube. Donc c'est un casse-tête qui a 50 ans qui a occupé, enfin je ne sais pas toi Guillaume, mais qui a occupé moi à l'école.
Bah alors justement, qui sur ce plateau a déjà réussi à terminer un
avec énormément de temps, j'ai aucune adresse, mais c'est un vrai casse-tête. Et tu sais qu'on peut, il y a des techniques, il y a un jeune collégien anglais au début des années 80 qui a trouvé, 1980, qui a trouvé une technique, et en une dizaine de minutes pour la personne standard,
on peut y arriver.
Et pourtant, il y a des milliards et des milliards
d'aliens qui arrivent à résoudre le problème.
Et le record du monde aujourd'hui est à moins de 3, un peu plus de 3 secondes.
3 secondes ?
Oui.
Et il y a surtout un artiste de street art qui fait des œuvres incroyables qui valent très 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 cher à partir de Rubik's Cube.
C'est génial. Bon anniversaire au Rubik's Cube, donc il fête ses 50 ans aujourd'hui. Ben voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus. Béatrice Mathieu, grand reporter éco à l'Express, Pascal Delima, économiste, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci à tous les trois. À très vite avec plaisir sur BFM Business. 19h55, c'est fini.
Et oui, c'est déjà terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais pas de panique puisque le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est BFM Business. Et puis sur toutes les plateformes. Évidemment, et une autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Bah évidemment qu'on vient demain soir, 18h, en direct pour Nouvelles Aventures. Tech & Co, François Sorel, dans un instant. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.